Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bienvenue au podcast Les petites frousses où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Aujourd'hui, j'ai Catherine, Félix-Antoine et moi, Joanie, et je vais vous parler d'un cas de possession.
Je vais avoir peur, je pense.
C'est assez effrayant. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cet épisode-là. On va en discuter aussi à la fin, qu'est-ce qu'on en pense, si on y croit ou pas. Oui, c'est troublant. Il y a des choses qui sont vraiment troublantes. Initialement, ça devait être Félix-Antoine qui s'occupe de ce cas-là. Il a commencé les recherches, mais évidemment, je m'en suis mêlée, fait que là, je l'ai comme volé.
Ben, c'est ça. Fait que j'ai quand même une bonne idée de ce qui est le cas. Hein?
Oui, mais il y a bien des choses que tu sais pas, par exemple.
J'ai fait une bonne grosse structure, mais disons que j'avais une vie...
Mouvementée.
Chargée, mouvementée, et Joanie a un grand désir de perfection. Donc, elle a repris les choses en main. Et à compléter le dossier.
Oui, il faut dire que j'ai eu le temps de lire un livre qui a été écrit là-dessus par des personnes qui étaient présentes au cours des événements, qui s'appelle Satan's Harvest. Puis j'ai plein de choses que j'ai pas vues dans aucun autre podcast ou vidéo sur le sujet qui a été mentionné. J'ai des informations qui n'ont pas été mentionnées nulle part, outre que dans le livre. Et sachez que la personne qui était possédée, Maurice Thériault, était co-auteur du livre.
Fait que là, tu nous drops ça.
Qui sont les autres personnes qui possession. Ont participé à l'écriture du livre?
Il y a deux auteurs, que c'est ça leur job, les journalistes. Okay. Il y avait Ed et Lorraine Warren, qu'on connaît de Annabelle, La Conjuration et compagnie. Et Nancy, la femme de Maurice et Maurice.
Donc, c'est des personnes qui sont très proches de Maurice.
Parce que tu nous dis que tu veux nous parler d'un cas de possession. C'est Maurice.
Maurice Thériault. Puis avant, je vais faire une petite mise en garde. Il va avoir des mentions de cruauté animale, de violence envers les enfants, de violence conjugale, d'agression sexuelle, etc. Mes sources sont le Washington Times, Palm Beach Post, le livre que j'ai mentionné, Satan's Harvest, puis un documentaire de Canal D. Parce que ça passe à Canal D! Mais où est-ce qu'on voyait les Warren? Ed et Lorraine Warren, Canal D. On les a tous vus. On est prêt à commencer?
Bien sûr.
Je vais commencer par l'enfance de Maurice, comment il a évolué dans sa vie, puis jusqu'au signe de possession.
Qui est Maurice?
Maurice est né en 1935 à Sainte-Alice-de-Lobinière, au Québec. Maurice a quitté sa terre natale très jeune après que son père, Maxime, ait fait l'achat d'une ferme tout près des frontières canadiennes à Van Buren, dans le Maine, aux États-Unis. Le petit village comptait 4500 habitants et abritait de nombreuses fermes et familles d'agriculteurs. Même avec la prospérité d'après-guerre, la vie était dure pour ceux qui devaient gagner leur vie en travaillant sur une ferme. Les parents de Maurice, Maxime et Imelda,
C'est Imelda.
C'est ça. Ils ont 8-15 enfants. Maurice était l'aîné. Dans le livre, puis dans la vraie vie, c'est pas les mêmes noms. Dans le livre, le père s'appelait Philippe, puis la mère s'appelait Alice. Puis c'était la même chose pour les futures conjointes de Maurice, il n'y avait pas les mêmes noms. Fait que des fois, je trouvais pas le vrai nom de la personne, fait que j'ai pas eu le choix d'utiliser le nom dans le livre, mais là, c'est pas le cas.
Pourquoi il n'y avait pas le même nom pour romancer l'histoire?
Non, je pense comme... l'anonymat.
Ah, okay.
Pour l'anonymat, pour pas que les gens voulaient peut-être pas être mentionnés dans le livre. Là.
Okay.
Après la naissance de Maurice, ses parents ont eu 3 filles, Jean, Pam et Sue. Puisque c'était des filles, Maxime, le père de la famille, était indifférent, sachant qu'elle ne serait d'aucune aide avec les tâches les plus ardues de la ferme. Il était si indifférent qu'il les ignorait pratiquement. Après les 3 filles, vint Maxime Junior, qui lui serait le chouchou de Maxime Père. Il recevait toute l'attention et son affection. Quelque temps après l'arrivée de Maxime Junior, Betty, Judy et Anne sont nés. Maxime les ignorait comme les autres filles. 5 autres enfants ont suivi, mais aucun ne bénéficierait jamais du traitement que Maxime avait réservé à son premier-né, Maurice. À la maison, la vie n'était pas facile pour Maurice. Son père, du haut de ses 5 pieds 9, était tyrannique et infligeait plusieurs punitions corporelles, notamment des coups de ceinture. Il le rabaissait constamment, le traitant comme s'il ne valait rien. Sa mère, Imelda, essayait de protéger son fils du mieux qu'elle pouvait, se plaçant souvent entre eux, mais finissait par prendre les coups à sa place. Même lorsque Maurice Thériault vivait au Québec, Maurice craignait les réprimandes de son père. Il se cachait sous son lit, espérant que Maxime ne le trouverait pas et qu'il ne le frapperait pas. Même s'il détestait son père, Maurice n'aurait jamais osé désobéir à ses ordres, car il savait qu'il recevrait des coups. Maxime n'avait pas d'utilité pour ses autres enfants, mais Maurice, en tant qu'aîné, supportait les poids de ses abus. Maurice a grandi sans câlin ou tape dans le dos encourageant de la part de son père. Maxime préférait gifler son fils plutôt que lui dire bonjour. Maurice comparait sa mère, Emelda, à un ange qu'il avait vu sur le vitrail d'une église quand il était jeune, avec son visage ovale, ses cheveux longs, bruns et ses beaux yeux ronds.
Voilà.
Belle, description.
C'est de même qu'elle est décrite dans le livre. Maurice s'émerveillait à voir à quel point sa mère avait l'air soignée malgré les heures épuisantes à travailler à la ferme et dans les champs. Emelda était la seule personne au monde vers qui Maurice pouvait se tourner pour obtenir de l'aide, mais ensemble, ils n'ont jamais évoqué la violence de Maxime, le père de Maurice. Maurice subissait également de l'intimidation des autres enfants de son âge. Son enfance était un véritable défi. En plus de l'intimidation, il n'y avait pas d'amis et son père le faisait vivre dans une peur constante. Maurice se comparait aux autres enfants. Ils vivaient également dans des fermes et leur père les laissait profiter de leur enfance, contrairement à Maurice, qui lui devait manquer des journées d'école pour travailler avec son père du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Maurice était très en retard dans ses études. Même s'il avait 13 ans, il n'était qu'en troisième année.
Pauvre petit pou.
Certaines de ses jeunes sœurs, qui, elles, n'étaient pas obligées de travailler sur la ferme, l'avaient déjà dépassé à l'école. Maurice n'était pas stupide, mais tout le monde le traitait comme s'il l'était. Lorsque son père lui permettait d'aller à l'école, il devait encore travailler chaque après-midi après les cours et toute la journée des week-ends. Épuisant, là. Maurice préférait aller à l'école même si les autres enfants s'en prenaient à lui. C'était mieux que de rester à la maison pour travailler avec son père parce que travailler aux côtés de Maxime Thériault signifiait de se faire crier dessus, se faire gifler ou donner des coups de pied pour la moindre erreur. Un jour, lorsque Maurice revenait de l'école, il espérait voir sa mère dans la cuisine en train de lui préparer ses pâtisseries canadiennes françaises préférées. À sa grande déception, Emelda n'y était pas. Maurice s'est dit qu'elle était probablement en train de travailler dans les champs, suivant les ordres de Maxime. Maurice est alors allé à la recherche de son père et il l'a aperçu entrer dans la grange. Il s'est dit que son père y allait probablement pour réparer une machine ou soigner un animal et qu'il pourrait secrètement l'observer travailler. Maurice savait très bien qu'il ne pouvait pas demander à son père de lui montrer quoi que ce soit, car il subirait de la violence de sa part. Peut-être que si Maurice apprenait quelque chose par lui-même, il impressionnerait son père.
Oh.
Maurice est entré discrètement dans la grange et il s'est caché derrière une botte de foin. Il fut estomaqué devant la scène qui se dessinait devant lui. Maurice n'était pas sûr de comprendre ce qui se passait, mais il était conscient qu'il ne devrait pas être là. Derrière la botte de foin, Maurice pouvait voir son père avoir une relation sexuelle avec une bête.
Ah, c'est bol.
Maurice était complètement figé. Il se demandait s'il devait fuir ou rester en place. Il était terrifié juste en imaginant ce qui lui arrivait s'il se faisait surprendre dans sa cachette.
Ouais.
Maurice a finalement pris son courage à deux mains et a tenté de fuir. En se tournant pour sortir subtilement, il n'a pas remarqué qu'une fourche était appuyée contre la botte de foin.
Non.
En l'effleurant, il l'a fait tomber bruyamment au sol. Le son a alerté Maxime, qui a immédiatement arrêté ce qu'il était en train de faire et a regardé autour de lui. Ses yeux se sont posés sur Maurice.
Ah, oh, Maurice, t'aurais dû rester caché!
Non, il a dû filer petit.
Mais il avait sûrement vraiment pas envie d'être là.
Mais je pense pas. D'une voix ferme, Maxime a ordonné à Maurice de s'approcher. Une fois plus près l'un de l'autre, Maxime a dit à son fils, « Je veux que tu me regardes.
Oh. »
Reprenant ce qu'il faisait avant d'être interrompu. Maurice supportait à peine de regarder la scène, mais il n'osait pas détourner le regard. Quelques longues minutes plus tard, Maxime avait terminé. Maurice s'est retourné, prêt à courir, mais la voix de son père l'a retenu en place lorsqu'il lui a dit « Maintenant, fais ce que je faisais. »
Oh non!
C'est dégoûtant. Hein?
C'est pas d'allure.
Maurice a fermé ses yeux et a tenté d'imiter son père tout en s'imaginant être ailleurs. Après quelques minutes, Maxime demande à son fils d'arrêter en disant « La prochaine fois, peut-être que tu ne me surveilleras pas. » Maxime a ensuite menacé Maurice de ne rien dire, sinon il le tuerait lui-même en l'enterrant dans une fosse à fumier. Après cet acte grotesque, Maxime est sorti de la grange en riant. Maurice, lui, s'est mis à pleurer. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il venait de faire, mais il savait que c'était mal.
Ah.
C'est sûr que fondamentalement, tu sais que tu n'es pas supposé faire ça avec un animal, là. Ça te brise un enfant. Déjà, en plus de la violence et tout, là.
C'est dégueu, man. Ça n'a aucun sens.
Au printemps 1948, alors que Maurice avait 13 ans, la situation ne faisait qu'empirer à la ferme Thériault. C'était la saison des semailles et il devait travailler plus dur que jamais. Chaque fois que c'était la période des semailles ou des récoltes, Maurice était obligé d'arrêter l'école pendant des semaines. Il est arrivé une fois où Maurice n'était pas capable de démarrer le tracteur et son père l'a engueulé en le traitant de tous les noms. Maxime a sauté sur le tracteur et a poussé Maurice pour le faire tomber en bas. En tombant, Maurice s'est cogné la tête sur une roche. Il s'est relevé difficilement et a marché vers la ferme en tentant de stopper le saignement qui provenait de sa tête. La haine qu'il ressentait pour son père s'est encore plus accentuée et il a prononcé la phrase suivante plusieurs fois en criant « Je préférais travailler pour le diable que pour toi. » Mais il y a plusieurs podcasts ou vidéos que j'ai vus que cette phrase-là, supposément que Maurice l'aurait dit au moment de l'acte de bestialité, mais selon le livre, c'est à ce moment-là précis.
Mais ça fait plus de sens, là. Parce que il parle de « j'aimerais mieux travailler pour le diable que pour toi ». Il est en train de travailler.
Il n'est pas en train d'avoir une relation sexuelle avec un animal.
C'est ça. Puis peut-être que quelque part, quelqu'un d'autre avait entendu cette phrase.
Dans ma tête à moi, là, son père, c'est le diable. Il travaille déjà pour le diable.
Ça se peut.
Ben, avec tous les châtiments qu'il lui fait subir, c'est vrai qu'on pourrait le comparer au diable.
Mais c'est diabolique ce qu'il a fait. Mm-hmm. Si on veut aller dans les synonymes. Là.
Voilà.
Lorsque Maurice avait 15 ans, son père a insisté pour qu'il quitte définitivement l'école sous le prétexte qu'il ne serait rien d'autre qu'un agriculteur. Malgré les interventions d'Emelda, Maxime avait pris sa décision. Maurice devrait travailler avec lui à temps plein. Maurice était déçu d'arrêter l'école malgré l'intimidation qu'il vivait là-bas. Il s'est résigné en se disant que son père avait probablement raison. Après tout, Maurice pouvait à peine lire. Les années d'école de Maurice étaient donc terminées et ses études de quatrième année devraient suffire. Désormais, il n'était plus un enfant, il était agriculteur. Maurice détestait travailler avec son père, mais il appréciait réellement le travail d'agriculteur, par contre. Au cours des 3 années suivantes, Maurice a travaillé fort et il a appris tout ce qu'il pouvait sur l'agriculture, tout en comptant les jours jusqu'à son 18e anniversaire. Le 13 juillet 1954 était le 18e anniversaire de Maurice et il avait un but bien précis, quitter la ferme. Le jour même, il a marché jusqu'au centre-ville, soit environ 8 km de la ferme, pour se rendre au bureau de recrutement de l'armée. Le sergent lui a dit que ses papiers semblaient être en règle et que tout ce dont il avait besoin était de réussir l'examen physique. S'il passait le test, Maurice serait probablement intronisé d'ici les 2 prochains mois.
Ce serait quand même rapide, en fait.
C'est ça. Fait que lui, il était bien content de ça, il avait l'air de crisser son camp. Mm-hmm. Maurice a réussi les tests physiques, il était ravi, mais il savait que le pire était encore à venir, il devait l'annoncer à son père. De retour à la maison, Maurice a rejoint son père et sa mère à la table de cuisine et a fait son annonce. Maxime était fou de rage. Oh. Emelda, assise à côté de Maurice, lui tenait la main et lui a dit « Ton père m'a dit qu'il t'empêcherait de quitter la ferme, même si c'était la dernière chose qu'il ferait. Il a besoin de ton aide ici. Il ne peut pas se permettre de te perdre et je ne veux pas te perdre non plus. Je sais que tu dois t'éloigner de lui. C'est dommage. Sa décision est prise. Je suis désolée. » Le lendemain, vers midi, Maurice a remarqué le camion de son père dans l'entrée. Maxime est sorti du véhicule en air satisfait. Il s'est dirigé vers Maurice qui lui réparait la porte de la grange. Une fois tout près de Maurice, son père lui a dit en riant « Tu peux oublier l'armée, espèce de bon rien, t'iras nulle part. » Maxime a alors tendu un morceau de papier à son fils. Il s'agissait de son résultat de son test physique de l'armée. Maurice pouvait à peine lire, mais il n'avait aucune difficulté à reconnaître un chiffre et une lettre tamponnée en haut. 4F. Le document disait que Maurice avait échoué son test physique. Pourtant, il savait très bien qu'il avait réussi, là.
Je savais que son père allait soit lui, genre, dire quelque chose de faux sur lui, pour qu'il ait l'air d'un genre criminel ou peu importe, pour pas qu'il le prenne.
Ouais.
Ou qu'il allait falsifier son test, quelque chose dans le genre. Là.
Ce qu'il a fait, dans le fond, le médecin militaire, là, c'était un ami, un vieil ami du père de Maurice. Oh. Fait qu'il est allé le voir, puis il a dit, ouais.
Qui évaluait, dans le fond, Maurice. Fait qu'ils ont falsifié son résultat.
Ouais. Maurice avait le souffle coupé. Selon le livre, Maxime lui a enfoncé un doigt profondément dans l'épaule en disant « Ce n'est pas ce que dit le médecin militaire aujourd'hui. Je t'ai dit que tu es un agriculteur. Tu t'occuperas de la ferme avec moi jusqu'à ce que tu aies au moins 21 ans. Si tu essaies de partir, je te retrouverai. C'est vrai, c'est un fait. » Maurice devra encore attendre 3 ans avant d'être libre. Il a tenté de se rassurer en disant que peut-être qu'il rejoindrait la garde nationale. Au moins, il pourrait sortir de la maison quelques soirs par semaine et occasionnellement les week-ends. Alors que l'automne est enfin arrivé, c'est exactement ce que Maurice a fait. Mais après avoir assisté à seulement 3 réunions, Maxime a commencé à s'immiscer. Un soir, Maurice attendait à l'extérieur que son ami Girard Laurent vienne le chercher pour une réunion. Maxime est sorti de la maison et lui a interdit d'y aller en le menaçant encore une fois. Pendant toutes ces années, jamais Maxime ne payait son fils sous prétexte qu'il lui offrait un toit et de la nourriture. S'il osait demander quelques dollars pour faire une sortie, c'était refusé à tout coup. Un jour, Maurice est allé au magasin de bonbons pour acheter un cadeau à sa mère avec le peu d'argent qu'il avait. En sortant, il a reconnu Josette Valérie, une belle blonde qu'il avait connue à l'école et qui avait toujours été gentille avec lui. Ils ont discuté et Maurice a osé l'inviter le soir même au cinéma. Maurice est retourné chez lui et a tout de suite vérifié si son argent de poche était toujours dans l'enveloppe qu'il avait cachée dans sa chambre. Mais celle-ci était vide.
Oh.
Maurice a demandé à sa mère de lui en prêter, mais elle avait seulement 1 $. Maurice est donc tourné vers son ami Jacques Girard. Ensuite, Maurice a demandé à son père de lui laisser son camion pour la soirée. Évidemment, Maxime a refusé. Mm-hmm. C'était inimaginable pour Maurice de faire marcher Josette jusqu'à la ville. Il a décidé de faire un autre appel à son ami Jacques Girard en lui demandant cette fois-ci de lui-même inviter Josette au cinéma. Plus tard, Maurice a découvert que ça avait vraiment cliqué entre Josette et Jacques. Ils ont commencé à sortir ensemble, puis ils ont fini par se marier.
Oh là, pauvre Maurice!
Ouais, c'est tout le temps un échec après échec. Ça montre un peu l'emprise que son père avait sur sa vie, dans toutes les sphères de sa vie, là.
Ouais.
Il était partout. Le matin du 21e anniversaire de Maurice, ses valises étaient déjà prêtes. Il s'est habillé, puis a jeté un coup d'œil à sa chambre avant de descendre. Tout ce que Maurice avait à se rappeler de cette pièce était de mauvais souvenirs, comme les dizaines de fois où son père l'avait fouetté. Il n'avait pas à craindre de croiser son père puisqu'il travaillait déjà dans les champs à cette heure. Par le fait même, il n'avait pas à se soucier de dire au revoir à son père. En descendant doucement les marches, Maurice a essayé de se concentrer sur les bons moments passés avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Dès qu'Emelda l'a aperçu dans l'escalier, elle a compris ce qu'il se passait et s'est mise à pleurer. Maurice était désormais un homme de 5 pieds 7 et elle le remarquait enfin, le jour de son départ. Elle savait que si Maxime n'avait pas été si dur avec lui, Maurice ne l'aurait pas quitté. Jacques, l'un des seuls bons amis de Maurice, est venu le chercher directement à la ferme et l'a déposé à la gare Greyhound, où il est monté à bord d'un bus pour Boston. Là-bas, il a pris un bus pour la Nouvelle-Bretagne, dans le Connecticut, où il serait enfin libre. Dans sa nouvelle vie, Maurice a passé 2 années à travailler dans un atelier d'usinage. Il détestait cet emploi, ses longues heures à travailler et à rester cloîtré sans sortir à l'extérieur. Tout ce que Maurice pouvait se permettre était un petit appartement au-dessus d'un bar. Son fort accent francophone lui a valu le surnom de Frenchie. Ce surnom est resté et même ses amis ont commencé à le surnommer ainsi.
À cause de son accent.
À cause de son accent.
J'haïs pas ça.
Ouais, c'est quand même cute. Maurice maudissait toujours autant son père, mais sa mère, ses frères et ses sœurs lui manquaient énormément. Mm. Maurice a fait la rencontre d'une belle blonde. Encore, il y avait les blondes. Elle s'appelait Patricia, qui était plus jeune que lui. Ils se sont mariés à Edmonton, au Canada. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Adam, Nicole et Marc. Me semble, dans mes souvenirs, Patricia avait 16 ans.
Oh, bis.
Ouais. Maurice était très exigeant envers Patricia. Il la trouvait paresseuse et la comparait toujours avec sa mère en disant des phrases comme « Ma mère pouvait tout faire, pourquoi toi t'es incapable? » Lors d'une dispute, Patricia se tourne et elle remarque que le crucifix accroché au mur est inversé. Elle alerte immédiatement Maurice et les deux ont vu qu'un liquide rouge, similaire à du sang, coulait le long du papier peint jauni. Le sang provenait des mains et des pieds du Christ. Ébranlés, Patricia et Maurice se sont pris dans leurs bras et se sont mis à genoux pour prier. Quand ils ont levé les yeux, le sang avait disparu. Maurice a jugé que ce qu'ils avaient vu était le fruit de leur imagination et le sujet de leur dispute fut oublié jusqu'au dimanche suivant. Après être allé à l'église, Maurice avait demandé à sa femme de lui préparer un rôti, mais il avait oublié de décongeler la viande. Quand Patricia lui a servi les restes du soir précédent, Maurice a explosé de rage. Il a quitté la table et en entrant dans la chambre, il a vu qu'encore une fois, le crucifix saignait encore.
On est dans les quelles années, là, par curiosité?
C'est pas longtemps après, là,
qu'il est parti. Il est pas vieux, là.
Il est dans 20aine, là. Maurice a crié à Patricia de venir voir et elle a tout de suite compris ce qui était en train de se passer. Maurice a touché le liquide qui se trouvait sur le mur et a bien vu que c'était du sang.
Wow!
Comme lors de la première fois, Patricia et Maurice se sont mis à genoux pour prier. Après leur prière, le sang avait disparu du mur, mais pas de leurs esprits. Le crucifix saignait encore et encore, toujours lorsque Maurice et Patricia étaient au milieu d'une dispute. Maurice a interprété ces incidents comme étant un signe que son mariage allait mal. Chaque fois que ça arrivait, il essayait d'arranger les choses entre eux. Patricia, elle, n'avait pas eu besoin d'un crucifix sanglant pour lui rappeler que son mariage n'allait pas bien. Maurice lui criait toujours dessus, un peu comme son père Maxime le faisait. Maurice, lui, ne comprenait pas comment sa femme pouvait ne pas accomplir toutes ses tâches ménagères alors qu'elle était à la maison toute la journée. Selon lui, elle devait être en mesure de les faire considérant qu'elle n'avait que 3 enfants et sa mère, elle, en avait eu 15, puis elle était capable de faire toutes ses tâches.
Ouais, mais là, quand t'en as 15, t'as une armée pour t'aider aussi, là.
Ouais, c'est vrai.
Ici, là, je tiens à le dire.
Puis... Ça dépend des enfants?
Ouais. OK, il y en a des plus durs que d'autres.
Mm-hmm.
C'était sûr que de toute façon, ça allait pas être un homme. T'sais, je veux dire, c'est rare que quand t'es autant maltraité dans ton enfance que ça laisse pas un peu de séquelles. T'sais, t'as aucune éducation, tu penses. C'est la seule chose que tu connais, là, la violence.
C'est un ou l'autre, là. C'est soit que tu vas être exemplaire ou soit que tu vas reproduire le modèle parental que t'as eu.
Ouais. Et t'y connais rien d'autre, là.
C'est sûr que dans son cas, comme tu dis, l'exemple qu'il a eu, c'est un père qui était violent envers lui, envers sa mère.
Mm-hmm.
Il était très exigeant envers les deux. Donc, pour lui, il s'attend probablement que sa femme...
Sa performante aussi.
Elle a un rôle un peu comme sa mère avait d'être une superwoman.
Puis d'avoir, de vivre dans la peur, sûrement que sa mère elle vivait dans la peur.
Probablement.
On s'entend.
Mm-hmm.
C'est quand même drôle que, genre, honnêtement, moi, si je me chicanais avec mon conjoint, puis qu'il y avait un crucifix qui commençait à couler du sang, là, je veux te dire que ça me motiverait à ne jamais me chicaner, là. Tu sais, surtout, en plus, eux, la religion, c'est fort. Puis jamais que je me chicanerais. Je vivrais avec cette personne-là, genre, dans le silence, là, s'il faut, là. Je voudrais pas que ça recommence.
Non, non, couler. C'est clair.
Fait qu'ils sont quand même game de chicaner, dans un sens. Je sais bien qu'à un moment donné, c'est des choses que tu peux pas éviter.
Mais je pense que c'est lui qui pétait des coches. C'était pas un petit conflit, là, puis il s'ostinait, là. C'était lui qui pétait sa coche quand quelque chose faisait pas son affaire, puis là, ça amenait à ça. Dans le fond, ce qu'ils ont remarqué, c'était surtout quand ça se passait, quand Maurice était fâché.
OK. Moi, ça me motiverait à me gérer et à arrêter d'être fâché, mais il faut croire que ça l'a pas fonctionné pour lui.
Mais lui, il voulait tout nier ça, là. Donc, tout ce qui est arrivé là, jusqu'à la fin, là, il était dans le gros déni.
OK.
Il voulait que ça se règle de par soi-même. Ça part doucement, là. Tu sais, c'est le genre de petits événements qui arrivaient pas tout le temps. Une fois de temps en temps, ça arrivait pas assez souvent pour dire « il y a vraiment de quoi qui cloche ». Plus ça va aller, plus ça va s'empirer, puis plus les événements vont être intenses, puis ils vont venir fréquemment.
OK.
Comme comme une hantise, dans le fond. Ça part doucement, là, pouf, ça finit plus.
Ça prend de la force.
C'est ça.
OK.
La famille de Maurice a emménagé dans le même coin que lui à la suite d'une difficulté financière sur la ferme. La mère de Maurice était ravie d'être à nouveau près de son fils aîné, mais heureusement, la vie de Maurice n'a pas été impactée par l'arrivée de son père. Les deux ont fait de leur mieux pour s'éviter. Maurice avait d'autres problèmes à gérer, comme son mariage, qui ne lui permettait pas d'accorder d'importance à son père. C'était plutôt la présence d'Emelda qui a eu raison de son mariage entre Maurice et Patricia. Maurice voyait sa mère comme une déesse dévouée pour sa famille, avec sa maison parfaitement propre et ses plats réconfortants.
Okay.
Un an après l'arrivée de ses parents dans son village, Maurice et Patricia se sont séparés, mais sont restés amis. Les deux se sont entendus pour que Maurice ait la garde de leurs enfants, puis Patricia a dû être hospitalisée à la suite d'une pneumonie. Durant cette période, des gens ont dit avoir vu Maurice à deux endroits en même temps. Une fois, Patricia a dit avoir vu Maurice dans sa chambre d'hôpital à Baltimore et lui aurait même offert des fleurs. Au même moment, il était auprès de sa mère dans un autre état. On pourrait croire qu'il s'agit d'une erreur de la part des deux femmes, mais elles étaient toutes les deux au téléphone au même moment.
Au téléphone ensemble?
Oui.
OK.
C'était comme « Ah ouais, Maurice vient de partir, il m'a apporté des fleurs. » Il ouvrait la porte puis rentrait chez sa mère en même temps.
Téléporté.
C'est un phénomène.
C'est un phénomène qui s'appelle la bilocation. La capacité d'être simultanément à deux endroits au même moment. Certains accordent ça. C'est un don qui est accordé au divin, mais aussi aux êtres maléfiques.
OK.
Dans la religion catholique.
Oui, oui, c'est ça, parce que j'étais comme pas dans la science.
Après sa séparation, Maurice passait d'un emploi à un autre. Il était limité par son manque d'éducation et avait de la difficulté à se trouver un emploi payant pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il était reconnaissant de la présence de sa mère, elle qui s'occupait de ses petits-enfants et de la maison de Maurice. Sa mère, là...
Quand même.
Une reine, pour vrai. Il a pris la décision de quitter sa mère et ses enfants pour retourner à Van Buren, au Maine, où il avait grandi, en espérant trouver une terre à un bon prix et avoir sa propre ferme. Il s'est déniché une ferme de patates, où il a fait la rencontre de Tania, une mère célibataire qui élevait son fils seul. Petite, mince, cheveux roux, yeux verts. On change de look.
On change de registre.
C'est ça. Mais Tania était parfaite pour Maurice. Il avait besoin d'une femme et ses enfants avaient besoin d'une mère. Maurice et Tania se sont mariés et sont retournés les deux. Ils ont quitté le Maine pour retourner au Massachusetts.
Fait qu'ils se sont rencontrés dans le Maine puis après se sont retournés là-bas après un certain temps.
C'est ça. Okay. Exactement. Il n'y avait aucun amour dans leur union. Ils ne partageaient aucun point commun, à part la ferme.
OK.
En 9 ans de mariage, Maurice et Tania n'ont eu aucun enfant.
Ce qui est rare pour l'époque. Parce qu'il avait quel âge quand ils se sont rencontrés?
Ben là, il devait
être une trentaine d'années.
OK.
Ouais. Puis elle avait déjà un enfant. Il y en avait déjà 3. Fait que... Au cours de leur relation, Tania a remarqué plusieurs comportements étranges de la part de Maurice. Comme la fois où leur chien est décédé et que Maurice a dit que quelqu'un l'avait frappé en voiture. Tania avait pourtant trouvé une pioche sanglante à l'endroit même où Maurice avait dit que le chien avait été frappé. Cette pioche appartenait à Maurice. Ou la fois où Tania avait vu son mari battre son cheval parce qu'il n'avait pas réussi à prendre un tour que Maurice essayait de lui apprendre. Lorsque Tania l'a réprimandé pour avoir été trop dur avec l'animal, Maurice a déclaré ne pas savoir de quoi elle parlait, ce qui ferait jamais ça parce qu'il aimait trop l'animal.
Oui, bien c'est ça, il était quand même un tendre, là, puis on dirait qu'en vieillissant, il devient rude, là.
Jamais Maurice n'a pris la responsabilité de ses comportements bizarres et violents. Il mettait le blâme sur sa femme en disant qu'elle l'incitait à commettre ses actes de violence. Tania avait l'impression qu'une autre personne habitait dans le corps de Maurice et que lorsque cette personne prenait le dessus sur Maurice, tout pouvait arriver. Au fil des années, Maurice est devenu plus introverti que jamais. Tania se sentait isolée parce que son mari ne parlait jamais de ses états d'âme avec elle, ni même des événements étranges qui lui arrivaient. Comme la fois où, à l'automne 1965, Maurice se promenait dans le champ et a failli trébucher sur une croix en bois. Lorsqu'il s'est penché pour la ramasser, en se demandant d'où ça pouvait bien venir, sa vision est devenue floue. Maurice s'est frotté les yeux, mais il s'est arrêté après avoir senti du liquide sur ses doigts. Lorsqu'il a regardé ses mains, il a vu qu'elle était recouverte de sang, malgré que Maurice n'ait eu aucun souvenir de s'être coupé. Maurice s'est précipité dans sa maison pour pouvoir s'examiner dans un miroir. C'est là qu'il a vu que le sang coulait de ses yeux, sans présence de coupure ou d'égratignure. Il a tenté en vain de nettoyer le sang, mais ça continuait de couler. L'idée de consulter un médecin lui est venue à l'esprit, mais Maurice est plutôt resté planté devant le miroir, à regarder le sang couler de ses yeux sur son visage, sa chemise et dans l'évier, sans ressentir de peur, de douleur ou d'inquiétude face à ce qui se passait. Après 20 minutes passées dans la salle de bain, Tania est allée cogner. Maurice est sorti de sa transe et a remarqué que le sang était désormais séché sur lui. Le soir même, le couple avait prévu d'aller danser. Ils ont quitté la maison vers 20 heures. Toute la soirée, Maurice était dans ses pensées. Il n'avait presque pas dit un mot après l'incident dans la salle de bain. Il n'a même pas salué ses amis et collègues qui se trouvaient à la danse. Il a passé la soirée assis, sans rien dire à personne. Vers 22 heures, Maurice a annoncé à Tania qu'il voulait partir parce qu'il avait quelque chose à faire. Tania était visiblement déçue de voir sa sortie hebdomadaire se terminer abruptement. Les deux sont embarqués dans la voiture sans dire un mot. Elle s'est dit qu'elle le punira à son tour en demeurant silencieuse, le bon vieux traitement du silence. Normalement, Maurice aurait proposé quelque chose pour se racheter, comme d'aller au restaurant. C'est pour compenser le fait d'avoir gâché la soirée de sa femme, mais pas cette fois-ci. Maurice conduisait rapidement en silence. Lorsque la voiture approchait un virage, il n'a pas ralenti. Tania voyait qu'il se dirigeait tout droit dans un arbre et même si elle criait le nom de son mari, il ne réagissait pas, comme si quelqu'un ou une entité conduisait. Quelques secondes avant que la voiture ne quitte la route et se dirige directement dans l'arbre, Tania a attrapé le volant et a redirigé la voiture. Au lieu de heurter l'arbre, un côté de la voiture a percuté un mur de pierre qui longeait la route. La voiture est endommagée, mais Maurice et Tania n'étaient pas blessés. Tania demanda à Maurice ce qui venait de se passer et s'ils essayaient de les tuer. Maurice, confus, ne se rappelait même pas d'avoir quitté la danse. Tout ce qu'il savait, c'est que l'accident l'avait sorti de ce qui semblait être un profond sommeil. Selon Tania, c'est comme si une entité avait pris le contrôle et qu'elle voulait qu'un accident se produise. Craignant pour la vie de son enfant, ainsi que pour sa propre sécurité, elle a mis un terme à leur relation.
100% d'accord, là.
À 43 ans, Maurice a quitté le Massachusetts et s'est installé chez son oncle Kevin dans l'État de New York. Après une longue période de solitude, il a fait la rencontre de Nancy en 1970, sa dernière femme. Les deux sont tombés amoureux et ont commencé à s'occuper d'une ferme ensemble, dans l'espoir d'en acheter une un jour. Tout allait bien pour Maurice. Sa relation avec Nancy était presque parfaite. Il habitait à une quinzaine de kilomètres d'où vivait sa mère et il était heureux.
Quand même.
Maurice et son père Maxime avaient même commencé à se parler. Ils n'étaient pas proches l'un l'autre, mais l'animosité n'était plus aussi flagrante lors des visites de Maurice chez sa mère. Les deux parlaient de leur ferme et parfois, Maxime posait des questions sur ses petits-enfants. Donc, on voit un petit semblant de relation qui commence à se former. Maurice pouvait voir que la rage que son père essayait de contenir était toujours présente. Mais au lieu de se défouler sur tout et n'importe qui, Maxime quittait en claquant les portes lorsqu'il devenait hors de ses gonds. Maurice comparait son père à une bombe à retardement et qu'il risquait d'exploser à tout moment s'il continuait d'échapper à sa colère. Les événements étranges qui avaient ruiné le mariage de Tania et Maurice semblaient s'être apaisés, mais cette union entre Nancy et Maurice ne serait pas épargnée. Un jour, Nancy et Maurice envisageaient d'acheter une ferme à Warren. Ils en discutaient ensemble des avantages et des inconvénients de cet achat, debout sur leur porche. Au milieu de la conversation, Nancy a pris la croix qu'elle portait autour du cou et a demandé « Demandons à Jésus de nous aider à nous décider ». Ce geste a déclenché quelque chose à l'intérieur de Maurice. Il l'a poussé à deux mains et elle est tombée du porche. Avant que Nancy puisse dire quoi que ce soit ou même réagir, Maurice avait sauté du porche et se trouvait au-dessus d'elle. Il lui a arraché la chaîne du cou et l'a lancée au bout de ses bras. Nancy était dévastée, le collier était un cadeau précieux de la part de sa propre mère. Maurice est remonté sur le porche et a commencé à marmonner quelque chose qui ressemblait à genre « Je la tiens par la main ». Il arrêtait pas de dire ça. « Je la tiens par la main, je la tiens par la main. » Ouais. Nancy s'est approchée de lui, mais Maurice semblait avoir oublié l'incident. Nancy a essayé de le faire parler de ce qu'il avait fait avec la croix, mais Maurice a insisté sur le fait qu'il ne savait pas de quoi elle parlait. Nancy n'a pas retrouvé la chaîne ni le pendentif, mais le soir suivant, Maurice a dit à Nancy qu'il avait un cadeau pour elle. C'était la croix puis la chaîne. Nancy a remercié Maurice d'avoir réussi à retrouver sa chaîne. Il lui a expliqué que c'était pas lui qui l'avait trouvé, mais plutôt une femme vêtue de blanc qui lui aurait pris par la main et l'aurait conduit jusqu'à l'endroit où se trouvait la croix. Nancy lui a demandé qui était la femme en question et Maurice a répondu que c'était la mère à Nancy. Le problème, c'est que la mère à Nancy était morte depuis 15 ans.
Mm-hmm.
Malgré cet incident, Maurice et Nancy ont acheté la ferme à Warren. Je pense que s'ils voulaient un signe de ne pas l'acheter, c'était peut-être ça, par exemple. L'incident avec la croix, mais bon. Durant cette même période, Maxime, le père de Maurice, a annoncé que lui et Imelda allaient déménager dans un autre état. Maurice était dévasté d'apprendre que sa mère allait s'éloigner de lui et a même tenté de convaincre son père qu'il devrait plutôt s'établir près de lui et Nancy, mais ça n'a pas marché. Après le départ de ses parents, Maurice pensait constamment à sa mère et ressentait un immense sentiment d'angoisse et de malheur. Une année passée, Maurice avait toujours l'impression qu'une catastrophe allait se produire et que les habitudes violentes de son père allaient refaire surface. Il parlait souvent à sa mère au téléphone et tout semblait bien aller. Imelda raconta à son fils que Maxime était souvent déprimé et maussade et que parfois c'était plus effrayant que lorsqu'il était en colère. En juin 1982, alors que Nancy et Maurice se préparaient à aller au lit, ils ont entendu tous les deux quelqu'un marmonner au rez-de-chaussée. En descendant les escaliers, Maurice était capable de distinguer deux voix, celle d'un homme et d'une femme qui se disputaient. Une fois dans le salon, la pièce d'où provenaient les voix se sont tues. Maurice n'a vu personne et est remonté se coucher après avoir rassuré Nancy. Le lendemain, Maurice a appris que son père, Maxime, avait tué sa mère, Imelda, avant de mettre fin à ses jours.
Oh my God!
C'est l'une de ses sœurs qui a trouvé les corps.
Oh là là!
Nancy avait commencé à noter dans un petit livre qu'elle cachait sous leur lit tous les incidents étranges qui se produisaient. Comme la fois où Maurice avait perdu connaissance après avoir dit « Ton père n'a plus beaucoup de temps » quelques jours avant la mort de Maxime et Imelda. Ou la fois où Maurice avait lâché le volant et les pédales dans la voiture alors qu'elle s'est mise à accélérer par elle-même.
Attends, il a dit « Ton père n'a plus beaucoup de temps », mais dans le fond, il parlait du sien.
Ouais. Nancy, elle pensait que Maurice parlait de son père à elle. Fait qu'elle était full inquiète, elle a appelé son père, puis c'était correct.
Mm-hmm.
Puis après ça, ils ont appris quelques jours plus tard que son père s'était tué. Avec sa mère, à Maurice.
C'est ça.
Puis il y avait une autre fois aussi qu'il conduisait, puis il a lâché le volant, puis les pédales, mais le char continue d'accélérer. Fait que ça, elle notait tout dans son petit livre. Maurice n'aimait pas l'idée de noter ces événements étranges parce qu'il préférait les ignorer, comme je disais tantôt, puis qu'ils partent par eux-mêmes. Mais après la mort de ses parents, Maurice a demandé à Nancy de sortir le petit livre et de lui lire certaines parties. Lorsque Nancy a sorti le livre d'en dessous du lit, elle fut surprise de constater qu'il était noirci comme s'il avait été brûlé.
Oh.
En ouvrant le livre et en feuilletant les pages, Nancy s'est mise à pleurer en voyant que le tout avait été carbonisé. Maurice a promis que c'était pas lui qui avait brûlé le livre, puis le regard de terreur qu'il avait au visage était suffisant pour que Nancy le croie. Le soir des funérailles de ses parents, Maurice a rêvé à eux, mais dans son rêve, son père était possédé. Imelda discutait avec les entités présentes dans le corps de Maxime. Selon le livre, la créature aurait dit « Nous ne sommes pas Maxime, nous sommes des vieux amis de Maxime ». Imelda aurait demandé « Qui êtes-vous ?» Et les entités qui possédaient Maxime auraient donné 33 noms de démons.
Oh.
Et auraient dit « Félix, je te laisse lire. »
« Vous nous reconnaissez maintenant. Nous sommes le diable. Nous allons vous tuer, puis nous allons tuer ce ver dégoûtant que nous utilisons depuis tant d'années. Ne pensez-vous pas que ce sera une conclusion appropriée à toutes les années où nous avons torturé vous et votre famille? Nous allons vous tuer, puis votre mari et ensuite votre fils. N'avons-nous pas été invités? Ce ver dans lequel nous vivons n'aimait-il pas maudire tout et tout le monde? Votre fils n'a-t-il pas invoqué notre nom? »
Toujours dans le rêve, la créature au visage de Maxime aurait imité la voix de Maurice en disant « Je préférais travailler pour le diable plutôt que pour toi. » Au cours de cette période, Maurice avait extrêmement de difficultés à dormir. Il s'endormait facilement, mais se réveillait toujours au beau milieu de la nuit, terrifié après avoir fait un cauchemar. Un rêve en particulier était récurrent. Dans son cauchemar, un être malveillant plantait des épingles dans son dos en riant. Le visage de l'être était masqué, mais quand Maurice pouvait le voir, il était hideux, un peu comme dans les vieux films d'horreur qu'il avait vus à la télévision. Un matin, Maurice s'est réveillé après avoir fait ce même rêve. Alors qu'il sortait du lit, Nancy s'est écriée en voyant son dos. Ils se sont dirigés à la salle de bain pour qu'ils puissent voir ce qu'il y avait. Quatre mots étaient gravés dans la peau de Maurice. « La porte est ouverte » en français.
Oh mon Dieu, en français. Ouais. On dirait que ça me fait encore plus peur.
Oui, mais Nancy n'était pas capable de le lire. Elle ne comprenait pas ce qui était écrit.
Ah. Fait que là, c'est en français.
C'est ça. Puis Maurice, c'est dans le miroir, fait qu'il voyait à l'envers.
Ça a pas de
sens. Ouais.
Mais ça, c'est quand même questionnable.
Pourquoi?
Dans le sens que Maurice était très jeune quand il a emménagé aux États-Unis. Puis sa scolarité, très peu qu'il a faite justement aux États-Unis, était en anglais. Mettons pour lire, écrire, parler. Donc, comment il était en mesure de lire le français?
Je pense qu'en fait, elle l'a lu, mais elle savait pas ce qu'elle disait.
Ah, puis lui, ouais, lui, si c'est le gars, il a compris.
OK,
ouais.
C'est possible.
Parce qu'il parlait 100% son français, parce qu'il était Frenchie.
OK, c'est beau. C'était juste un...
Non, mais c'était un bon point.
Parce qu'elle, Elle la comprenait pas. Lui, il voyait pas parce que c'était à l'envers dans le miroir. Elle la comprenait pas parce que c'était en français. Mm-hmm. Elle l'a écrit. Elle a dit...
La porte est ouverte.
La porte est ouverte. Fait que là, il fait, ah, la porte est ouverte. Donc là, c'est mauvais signe, on s'entend.
Mm-hmm.
Ces événements étranges ont suscité de nombreuses disputes dans le couple. Nancy était déterminée à rester auprès de Maurice. Elle n'allait certainement pas l'abandonner au moment où il avait plus besoin d'elle. Un matin, alors que Maurice et Nancy étaient assis à la table en sirotant leur café du matin, Nancy a dit « Je veux que nous voyions un prêtre ». Ils sont donc allés voir le père Omer Boyer, qui lui avait reconnu le couple qui venait parfois à la messe du dimanche. Nancy a expliqué la situation en ne mentionnant pas certains détails de peur de passer pour des fous.
Justement, tantôt, je voulais te demander si tu savais s'il allait encore à la messe du dimanche, parce qu'on dirait qu'à toutes les fois qu'il voyait des symboles religieux ou comme juste le fait que sa femme ait dit « on va demander à Jésus sur le porche », puis qu'il est parti en transe, je me dis « quand il va à messe, il doit être, il doit y arriver une coupe de syncope ».
Pas à ce moment-là, mais plus tard, oui.
Il y a du sang qui coule du plafond de l'église.
Imagines-tu? Mais ça va y arriver tranquillement, les événements à l'église.
OK.
Mais il allait pas souvent, en gros.
C'est ça que je me disais.
Le prêtre leur a alors proposé comme solution de les marier. Ils se sont dit que ça devait être à cause de ça. Que...
Eh bien, quand même, hein?
C'était le... Mais elle n'a pas tout raconté ce qui se passait. Elle a surtout raconté l'événement que Maurice aurait vu sa mère.
OK.
Fait que là, après ça, ta mère veut que tu te maries.
Ouais.
Fait que, ils ont accepté. Nancy et Maurice se sont mariés le 19 mai 1984 à l'église Saint-Paul par le père Omer Boyer. Nancy espérait et était convaincue que le pire était derrière eux, mais elle avait tort. Oh, qu'elle avait tort! Un mois après leur mariage, Maurice a eu une vision pendant qu'il coupait des branches avec une scie à chaîne dans un champ. Dans sa vision, il a vu la scie à chaîne le couper après lui être glissé des mains. Au même moment, ça s'est produit.
Bon.
La scie lui a glissé des mains et la lame lui a transpercé la botte. Malgré le sang, Maurice ne ressentait aucune douleur. En marchant vers la maison, il s'est mis à répéter à voix haute « Je ne me suis pas coupé », tout en laissant une traînée de sang derrière lui. Une fois rendu à la maison, il a enlevé ses bottes et sa chaussette ensanglantée et a vu qu'il n'y avait aucune blessure.
Uh-huh.
C'est un peu bizarre. Quelques semaines plus tard, il y a eu 3 mystérieux incendies à la ferme. Personne n'a été blessé, mais les 3 incendies consécutifs ont été difficiles financièrement. Le chef de police, Jerry Leboeuf, pensait que Maurice était responsable des feux et qu'ils essayaient de récolter l'argent des assurances.
Ouais.
D'autres choses sont arrivées. Des crucifix qui saignaient, des objets qui brillaient dans le noir, des items qui volaient dans les pièces, des incendies qui éclataient. Mais personne n'était jamais blessé. Les événements étaient assez inoffensifs, même s'ils généraient beaucoup de peur. Près du Noël 1984, Nancy et Maurice voulaient décorer la ferme. Maurice a construit une croix en bois de 6 pieds d'hauteur et il avait l'intention de la placer sur le toit de leur maison. La croix posée sur ses épaules, Maurice commença à monter sur l'échelle pour se rendre au toit.
Ouh.
En tentant de garder son équilibre, ce qui est une tâche assez téméraire. Il a installé la croix, puis est redescendu pour aller chercher les lumières de Noël. Maurice n'a pas été capable de les placer parce qu'il est tombé du haut de l'échelle à 2 reprises parce que l'échelle semblait trembler. La première fois, il est tombé sur sa tête, mais il n'a pas perdu conscience. La deuxième fois, les lumières de Noël se sont enroulées autour de son cou lors de sa chute.
Oh là là!
Au début de l'année 1985, Maurice et Nancy sont allés à la messe du dimanche. Au moment où Maurice allait passer les portes de l'église, Maurice est tombé sur Nancy qui était derrière elle, comme si quelqu'un l'avait poussé, puis il reculé par en arrière. Maurice s'est relevé et a vu qu'il avait des écratignures sur son corps et que ses pantalons étaient déchirés. Il a retenté de rentrer dans l'église, mais cette fois-ci, il n'a pas eu de problème. Durant la messe, Maurice était agité, il riait, puis il n'a pas prié une seule fois. À la fin de la messe, Nancy et Maurice sont retournés voir le père Omer Boyer. Cette fois-ci, elle lui a raconté tout ce qui s'est passé, puis la conversation a duré 3 heures.
OK.
Le prêtre a dit que la maison était probablement hantée et qu'il irait la bénir. Le jour suivant, le prêtre est allé à la ferme avec son eau bénite avec laquelle il a aspergé toutes les pièces de la maison. Il a donné aussi un crucifix en or à Maurice pour qu'il puisse le garder avec lui en tout temps, ce qu'il a fait. En quittant, il a conseillé à Maurice et Nancy de l'aviser si d'autres événements se produisaient. Le prêtre avait un doute que ce serait pas suffisant, là, son petit rituel ouais. avec l'eau bénite, là. Quelques semaines plus tard, Nancy a contacté le prêtre parce que Maurice avait été vu à 2 endroits au même moment.
Oh. Bilocation.
Ouais. Puis cette fois-là, c'était un peu différent. Là. C'était dans la même pièce, dans la maison, dans le fond. Dans la maison qui était vue 2 fois. Nancy est à la maison avec son frère Hank et la femme de son frère, Melissa. Maurice est sorti de la chambre complètement nu, quelque chose qu'il n'aurait jamais osé faire normalement. Le frère de Nancy a essayé d'attirer l'attention de Maurice, mais il l'a ignoré puis il est sorti de la maison. La belle-sœur de Nancy, Melissa, s'est précipitée dans la chambre et s'est écriée en voyant Maurice assis sur le bord du lit en train de pleurer du sang. Après cet incident, Maurice s'était assis dans une chaise, le regard vide, et se parlait à lui-même dans une langue qu'il ne connaissait pas. Elle a précisé que ce n'était pas le français, mais que ça sonnait plus comme le langage que les prêtres utilisaient durant la messe. En gros, il parlait le latin.
C'est ça.
Après l'appel de Nancy, le père Omer Boyer s'est souvenu d'un livre intitulé « Le démonologiste » qu'il avait acquis il y a quelques semaines en espérant en apprendre plus sur le paranormal. Il l'a feuilleté rapidement et a décidé de contacter les auteurs du livre, Ed et Lorraine Warren, un couple de démonologistes. Ed Warren, on les connaît, on les voit beaucoup dans les films, là, Conjuration, La Nonne, mm-hmm. toujours une référence avec eux. Comme je disais tantôt, on a écouté Canal D, ils ont tout le temps, ils ont été leur hantise. Là. À chaque épisode, on les voyait faire leur petit témoignage puis expliquer ce qu'on voyait, surtout Lorraine. Là.
C'est vrai, on dirait que je ne me souviens pas de les avoir vus en hantise.
Faudrait que je te montre leur face.
Moi non plus, puis quand j'ai commencé les petites recherches, j'ai écouté le petit documentaire à Canal D, puis effectivement, ils sont là, mais moi non plus, je me rappelle pas de les avoir vus outre que... en faisant les recherches. Mais c'est vrai qu'ils sont souvent à Canal D.
Elle a quand même été sur genre plusieurs plateaux de tournage des films qui ont été inspirés de ces faits.
C'est vrai. Alors, Ed Warren s'est intéressé au monde des esprits et des démons après avoir habité dans une maison hantée quand il était jeune. Et Lorraine, elle était une médium avec le don de clairvoyance, selon le livre. Dans les jours suivants, Ed et Lorraine Warren se sont rendus au domicile de Maurice et Nancy, accompagnés par Karen Jaffe, une détective qui avait un grand intérêt pour les crimes en lien avec l'occulte. Quand Lorraine a vu Maurice, elle a dit que son aura était sombre et vaseuse.
Eh bien, hein?
J'adore le terme vaseuse.
Ouais, je m'y connais pas beaucoup en aura, j'en ai jamais vu. Encore une fois, Nancy a dû raconter tout ce qui s'était passé pendant que Maurice restait là sans rien dire, en approuvant parfois les paroles de sa conjointe. Quand Nancy a mentionné la mère de Maurice, il a éclaté en sanglots. Ed, Lorraine et Karen ont été choqués de réaliser que les larmes de Maurice étaient du sang. Donc, c'est un problème fréquent là, qu'il pleurait du sang.
Aïe, aïe.
Ça ne tentait pas d'aller consulter un médecin?
Un ophtalmologue, mais oui, mon petit merde. Oui. Selon eux, c'était presque certain que Maurice était possédé par un démon et qu'un exorcisme serait nécessaire. Ils ont contacté plusieurs personnes pour leur venir en aide, dont deux de leurs assistants, Chris McKenna et Chris Finberg, un non-détective nommé Ken Birch et deux de leurs amis, Joey Taylor et Fred Salvio. Puis dans mes souvenirs, là, ça se peut que je me trompe, mais dans Insidieux, il y a toujours deux petits bonhommes là, qui n'arrêtent pas de prendre des photos dans la maison, mais c'est comme une représentation des deux Chris.
OK.
Dans mes souvenirs, mais je pourrais me tromper. La prochaine étape était que Maurice serait évalué par un psychiatre catholique. Plusieurs symptômes associés à une possession démoniaque peuvent aussi être attribués à des troubles mentaux ou à une autre condition médicale. Puis on se rappelle à l'époque, là, crise d'épilepsie, t'étais possédé. Parkinson, t'étais possédé. Des affaires comme ça, maintenant. Des troubles mentaux, t'étais possédé. Fait qu'il devait être évalué, c'était une demande de l'Église.
OK.
Avant de vous parler des symptômes de la possession démoniaque, je vais vous parler des étapes, parce qu'il y en a quatre. La première est l'empiétement, où un esprit négatif se voit ouvrir une porte sur un être humain, soit par des moyens volontaires, comme un rituel satanique, ou par des moyens involontaires comme une malédiction ou l'accomplissement d'un acte impur. On peut se rappeler aussi de l'acte de bestialité, ça pourrait être considéré comme un acte impur, ou le fait qu'il le demande lui-même en disant « j'aimerais mieux travailler pour le diable que pour son père ».
Ça, ça fait plus style malédiction.
Non, parce que malédiction, ça serait infligé par quelqu'un d'autre, je pense. Là, c'est lui qui l'a demandé.
J'aurais tendance à croire aussi que c'est quelqu'un d'autre, mais en même temps...
Ça peut.
On dirait que si tu cries au loup...
C'est dur à dire.
C'est bon.
Deuxième étape, c'est l'infestation, lorsque les démons hantent pour la première fois la maison d'une personne. Fait que là, les objets qui bougent, les objets qui brillent dans le noir, les objets qui apparaissent, les crucifix qui bougent, qui tournent à l'envers, des choses comme ça. La troisième étape, c'est l'oppression, lorsque les esprits commencent à essayer de prendre le contrôle de la personne qui vit. Fait que là, ils commencent à contrôler ses actions, comme dans la voiture, des choses comme ça.
Mm-hmm.
La quatrième étape est la possession complète, donc la mort.
Oh my God!
Ouais. Les symptômes, aversion pour des objets ou symboles religieux. La personne peut réagir négativement à la présence d'objets religieux tels que des crucifix, la croix de Nancy. Réaction violente à des prières ou à des rites religieux. Comportement anormal ou changement soudain de la personnalité. La personne peut présenter des comportements extrêmes, agressifs ou erratiques qui ne sont pas conformes à son caractère habituel. Parler dans des langues inconnues ou étranges, souvent en profanant des blasphèmes ou des insultes religieuses. La personne pourrait manifester des capacités inhabituelles telles qu'une force inhumaine. Connaissance de détails personnels inconnus qu'elle ne devrait pas être en mesure de connaître. Okay. Ça, de ce que j'ai lu, c'est pas arrivé à Maurice, par exemple. Les personnes possédées font preuve de violence, d'actes et de comportements meurtriers. Puis là, j'ai trouvé aussi des citations dans la Bible, là, genre « être jeté par terre », selon Marc, verset 9, chapitre 18, c'est un signe de possession. « Avoir de l'écume à la bouche », aussi, Marc, verset 9, chapitre 18, mais tout le même verset, dans le fond, puis « devenir raide ».
OK. Fait que genre, une petite crise d'épilepsie, ça serait...
Genre, c'est pour ça que c'est considéré ça, hein? Comme ça.
Ouais.
Lorraine, Ed, Maurice et Nancy se sont rendus au cabinet du psychiatre catholique qui évaluerait Maurice. Son diagnostic était que Maurice était un déviant sexuel.
OK.
Fait que là, les quatre personnes sont parties. Ça inclut Lorraine, Ed, Maurice et Nancy. Ils sont partis un peu de ce rendez-vous-là bafoué, là, parce que là, apparemment, ils seraient déviants sexuels. Ils étaient tous à bord dans la même voiture. Puis sur la route du retour vers la ferme, Maurice s'est mis à crier de douleur au point qu'ils ont dû s'arrêter. Maurice disait avoir super mal au dos et quand ils ont regardé, ils ont vu qu'une énorme croix avait comme été brûlée dans sa peau.
Oh là là!
Puis il y a une photo de ça que tu vois qu'il y a du sang. Tu vois son chandail, genre, ils n'ont pas pris la photo de la croix. Ils ont pris une photo du sang qui transperçait le chandail.
Ah!
Ouais. Dans le livre, là, je vais la publier. Maurice a été emmené chez un médecin qui a accusé Maurice de s'être fait ça lui-même.
Mm-hmm.
Avec l'histoire des feux sur la propriété, là, sur la ferme, et que la police soupçonne que Maurice soit responsable, plus les Warren qui étaient dans le village, les rumeurs se sont mises à se propager à un tel point que des articles ont commencé à popper. Le premier étant un article qui avait comme titre « L'Église considère faire un exorcisme à Warren ». Puis c'est quand même drôle qu'il habitait dans un village qui portait le même nom.
Ça me mêle.
Dans cet article-là, le nom de Maurice n'était pas mentionné.
OK.
Avec le temps, les articles se sont multipliés avec des titres passant à « Un fermier mène un combat contre un démon ». L'exorciste est la seule issue. Satan n'est pas dans notre ville. Un homme possédé demande un exorciste. Il y en avait, ça n'arrêtait plus. Puis les articles étaient publiés à travers le monde.
Ben c'est sûr. Imagine dans ce temps-là, un petit village, ça commence à faire des petits ragots assez vite. Puis parle de possession.
Démoniaque.
Ouais, là.
Tranquillement, pas vite, les gens ont compris que l'homme mentionné dans l'article était Maurice Thériault. Des gens se sont mis à passer devant la maison en klaxonnant, en criant des injures, en lui demandant de quitter la ville. Il y a même eu des touristes et des prétendus guérisseurs qui se rassemblaient devant la maison. Les incidents continuaient de se produire. Une fois, du sang a coulé de ses yeux, puis un liquide jaune de sa bouche. Il grognait puis est tombé évanoui. Nancy l'a retrouvé par terre en revenant de l'épicerie. Nancy avait de la difficulté à dormir et une fois, elle entendait un bruit constant, comme une goutte qui tombait par terre. Elle pensait que ça venait de la salle de bain, mais elle a réalisé que c'était au pied du lit, puis que le son était plutôt le bruit que ferait un animal affamé qui mange de la viande. Puis elle restait dans son lit sans bouger, jusqu'à temps qu'elle tombe endormie. À la maison de Maurice et Nancy, le prêtre Omer Boyer était venu, puis il avait donné une croix en or à Maurice. Là.
Mm-hmm. Oui.
Il avait donné ça, puis quand il était venu, bien, Maurice a voulu lui montrer « Hey, je l'ai toujours sur moi, la croix », mais en même temps, la croix a volé, puis elle a quasiment crevé l'œil du prêtre. Puis quand Maurice a tendu la main pour prendre la croix, il y avait aussi Ed puis Lorraine Warren qui étaient là. Ils ont toutes vu qu'il y avait une brûlure dans sa main, la main qu'il avait prise pour prendre la croix. Un autre jour, Robert Manning, un ami de Maurice et Nancy, les a visités après avoir entendu tout ce qui se passait avec eux à la ferme. Robert leur a fait cadeau d'une bouteille d'eau bénite, des belles petites attentions. Maurice n'a pas réagi, puis il faisait juste regarder par la fenêtre. Il ignorait Robert là, complètement. Nancy a voulu attirer son attention, mais ça ne fonctionnait pas. Fait qu'elle a décidé de lui mettre un peu d'eau bénite sur le front. Oui, hein? C'est pas une bonne idée. Dès que l'eau bénite est entrée en contact avec sa peau, Maurice s'est raidi, puis du sang s'est mis à couler de sa bouche. Et l'eau bénite qui avait coulé sur son front est devenue rouge. Après ça, Maurice s'est juste levé, puis est parti dans la salle de bain. Pas d'émotion, pas de réaction. Quelques minutes plus tard, Maurice est sorti de la salle de bain, puis était comme « Hey, salut Robert! Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? C'est le fun de te voir! »
Comme si là, il était revenu à lui-même.
Il n'avait pas remarqué qu'il était là, comme s'il venait juste d'arriver.
Mm-hmm.
Robert est parti peu de temps après, un peu déconcerté. Puis à peine sorti de la cour de Maurice et Nancy, il s'est mis à ressentir des nausées intenses, des brûlures d'estomac, des étourdissements.
Oh.
Il a peu eu le choix d'arrêter sa voiture, puis il a attendu de se sentir un peu mieux pour repartir. Une fois chez lui, sa femme a dit « Tu retournes plus jamais là-bas. »
Ben non.
Jamais. Puis Robert a passé sa nuit à vomir.
Aïe, aïe, aïe.
Robert, il n'a plus jamais retourné à la maison. Il a quand même vu, par exemple, en dehors de la maison, là, pour témoigner justement de ce qui était arrivé à un prêtre, mais sinon, il n'a plus jamais mis les pieds là.
Mais justement, moi, je trouve que la femme, Nancy, là, est game quand même de rester avec. Là. Moi, j'aurais peur que l'entité me prenne aussi. Là.
C'est vrai?
Je trouve ça comme, tu sais, je veux dire, tu es à côté d'un démon, basically. Là.
Ouais.
Tout le temps, 24-7. Là.
Ouais, absolument.
Mais il y avait beaucoup de monde, par exemple, qui restait là tout le temps, le jour et nuit, de l'équipe des Lorraine Warren.
Ils étaient bien accompagnés.
Oui.
Parce que, tu sais, d'habitude, elle était comme dans des relations un peu malsaines là, depuis le début. Fait que là, je trouve qu'elle a beaucoup de dévouement. J'ai hâte de voir où ça s'en va.
Fait que l'histoire de Robert est tombée aux oreilles des Warren qui ont expliqué que le démon aurait pris Robert pour une menace avec son cadeau d'eau bénite.
Mm-hmm.
Fait qu'il a voulu comme l'attaquer. Les Warren ont demandé à Nancy, Maurice et Robert de rendre visite au prêtre Boyer pour que Robert puisse raconter ce qui s'était passé. Une fois sur place, le prêtre était accompagné de l'évêque Timothy Harrington. Maurice vivrait son premier exorcisme à ce moment-là. L'évêque Harrington a commencé avec une prière. Puis pendant que les prières continuaient, Maurice disait avec une voix qui n'était plus la sienne, « Je suis au plus profond de l'âme de cet homme. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas me faire partir. » L'évêque a conduit ses prières. Il a lancé de l'eau bénite sur Maurice, un classique. Maurice a fini par reprendre ses esprits, puis quand il a vu qu'il était tout mouillé d'eau bénite, il a pensé qu'il s'était fait pipi dessus, fait qu'il était full gêné. Il a demandé une cigarette, puis c'est comme si tout était réglé.
OK.
Voilà.
Ouais, tu sais, une cigarette, des fois, ça arrange bien les affaires, faut croire.
Ed Warren avait un doute que dans un cas de possession démoniaque, ça prendrait plus que 3-4 prières.
Mm-hmm, ouais, ouais.
Puis il avait raison. Après cette première tentative d'exorcisme, Maurice, Nancy et Ed sont allés manger ensemble. Maurice semblait ravi et soulagé. Là. Il était léger. Mm-hmm. C'est comme si tous ses problèmes étaient derrière lui. Il aurait complimenté l'évêque, puis il se serait approché d'Ed en disant avec une voix qui n'était pas la sienne, « J'aimerais vous cracher au visage. »
Ah oh, bon, ça y est.
Là, ils ont bien vu. Oups!
C'est pas
ça
fini.
Marche pas. Ça marche pas. Là. Ils étaient bouche bée. Les 3 prochains jours se sont passés dans le calme, sans événements étranges. Jusqu'au soir où les Warren ont reçu un appel de l'un de leurs assistants qui dormait chez Maurice et Nancy parce que des objets volaient dans la maison. Des vases, des cadres, n'importe quoi.
Oh.
Ça cassait le frein. Un autre jour, Maurice est allé à l'église puis a entendu quelqu'un crier son nom. Il n'arrêtait pas d'entendre quelqu'un dire son nom.
Maurice, Maurice!
Ouais. Ça doit vraiment faire peur, là. Chris Finberg, un des assistants des Warren, a pris la note suivante durant son séjour chez les Thériaux.
Le corps de Maurice le fait souffrir. Chaque muscle de son corps lui fait mal. Il y a une odeur insupportable dans la maison. Les pièces sont froides, puis il se met à faire si chaud que ça nous donne envie d'être malade. Rick, le gendre de Maurice, a dit que chaque fois que la famille vient à la ferme, quelque chose se produit. La famille éprouve d'énormes douleurs dans leur corps, des douleurs contre nature et des mal de dents sévères.
Il y avait aussi des cognements étranges dans la maison. Des objets qui se retrouvaient collés au plafond, des bruits de grattements se faisant entendre. Honnêtement, là, le nombre de phénomènes qui est arrivé, qui est écrit dans le livre, ça n'a aucun sens. Un des assistants des Warren, qui s'appelait Joey, a demandé à Maurice de boire de l'eau bénite. Et après l'avoir fait, crise de mauvaise idée, puis en plus, les Warren, ils disaient tout le temps, tentez jamais le démon quand vous êtes là-bas, tentez jamais d'avoir une manifestation quelconque, faites jamais ça.
Non, ils sont juste jamais. Là pour superviser.
Oui,
là.
Exact. Mais lui, Joey, il a dit, « Bois donc de l'eau bénite, Maurice, ouais, qu'est-ce que ça fait? »
J'ai l'impression que boire de l'eau bénite quand t'es une personne possédée, c'est un peu comme boire genre du peroxyde.
Ouais, boire de l'acide,
ça
carrément.
Ça brûle le parent dedans.
Ben c'est ça, mais il s'est mis à cracher du sang.
Ben c'est ça.
Donc, ça bouge chez lui pleine de sang. Un matin, Maurice est allé à la salle de bain pour faire sa barbe et il a vu un double de lui dans le miroir. Il a raconté qu'il fallait qu'il se retienne pour pas se trancher la gorge avec sa lame de rasoir. Maurice a repris ses esprits puis il s'est dit qu'il ferait sa barbe un autre jour.
Mais c'est une sage décision. Oui. Un double de lui dans le miroir, moi, ça m'arrive aussi.
Mais c'est ça que tu racontais l'autre fois, que tu regardes dans le miroir jusqu'à temps que tu te déformes.
Non, mais quand je me vois dans le miroir, c'est mon reflet?
Non, mais il y avait un autre, là.
Ah oui, quand je me
déforme. Non, tu voyais lui, puis il voyait quelqu'un d'autre à côté.
Ouais. OK, fait qu'il était 3 Maurice.
4 dans le fond. Parce qu'il n'avait 2 dans le miroir, puis il n'avait 2 à côté.
Oh.
L'enfer.
Dans le fond, il voyait dans le miroir, puis il y avait quelqu'un en arrière de lui.
OK, hein? Je comprends, oui.
Puis, dans les mêmes temps, des gens ont dit qu'ils ont vu encore Maurice en double, mais ils ont vu les 2 Maurice rentrer l'un dans l'autre.
Ouh.
Bilocation qui se rencontre.
Exactement.
Bilocation tout unilocation.
Genre, là, il n'y avait plus 2 Maurice, il y en avait 1. Fait que ça, c'est pas non plus un très bon signe. Une autre fois, Nancy faisait des tâches dans la maison et elle a remarqué que Maurice était dehors depuis un bon bout de temps. Elle est allée le rejoindre dans la serre. Quand elle est entrée, Nancy a crié le nom de son mari plusieurs fois sans réponse. Voici un passage du livre qui décrit ce que Nancy a vu.
Maurice était penché et s'est redressé brusquement. Son visage était déformé par un regard sadique. Son front devint distendu, semblable à celui d'un singe. Ses yeux étaient infernaux. La serre était remplie d'une odeur épouvantable. Ce qui regardait Nancy n'était certainement pas son mari. Instinctivement, elle attrapa sa croix qu'elle portait désormais en permanence et la brandit devant elle en disant « Je vous commande de partir au nom de Jésus-Christ. » Au son de ces mots, Maurice se saisit la tête et hurla de pure agonie. Il tira la tête en arrière et ouvrit la bouche, ne formant pas un cercle comme la bouche de n'importe qui l'aurait fait. Maurice s'est ensuite effondré en tremblant.
Hein? La bouche, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle s'est pas ouverte en rond, genre.
Elle s'est ouverte en quoi?
Ben, il disait que c'était comme carré, là.
OK, j'ai bien fait de poser la question. Ouais.
Très étrange, là. C'est une vue pas très plaisante.
Le front de singe distendu aussi, je me pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire?
Très féroce, je pense.
C'est beau.
En voyant que la situation continuait de dégénérer, Nancy a envoyé ses enfants chez des proches et de la famille. Elle a eu le goût de quitter Maurice et s'enfuir dans un autre état. Sa vie se résumait à s'occuper de la maison et de la ferme et d'attendre qu'un autre événement étrange se produise.
Tellement, là.
Mais selon le livre, Nancy a persévéré pour le bien de Maurice. Sauf que Nancy a dit dans un documentaire qu'elle restait plutôt par peur parce que Maurice les menaçait de mort si elle osait le quitter.
Ben ouais, on dirait que ça aussi, je m'en doute, là. Ouais. Je trouvais qu'il était très vilain avec ses autres femmes. Puis là, du jour au lendemain, parce qu'il était dans une relation avec une femme qu'il aimait beaucoup, il aurait décidé qu'il était plus violent puis qu'il était une pure soie. Ça m'aurait surpris.
Ouais.
Fait que je me doutais. Puis en plus, tu sais, ton conjoint, c'est démon pratiquement, là.
Et ça doit être dur à gérer, là.
J'aurais un peu peur de chaque move que je fais.
Oui. Tu veux pas
Tu marches sur des œufs.
Exactement.
Ça. Elle aurait dû faire comme la dernière Tania qui est juste partie au premier signe puis qu'elle a levé les feux.
Des événements se passaient quotidiennement, puis c'est comme si la première tentative d'exorcisme avait empiré les choses fois 100.
C'est souvent ça, on dirait.
Ouais. Ça l'a dérangé, le démon. Maurice avait des envies suicidaires. C'est même arrivé qu'Ed arrive sur le fait durant une tentative. Il y avait genre, il était dans son troc, puis il y avait une corde à côté, puis il s'en allait le faire, là.
Mais je le comprends, là. Je veux dire, t'es pris avec un démon dans toi.
Oh, ouais, puis tu vois pas de fin, là.
Ben non.
Ed savait que c'était encore une manifestation du démon qu'il possédait. Parce que c'est le démon qui voulait que Maurice tue le corps qui lui avait été donné par Dieu.
Mais en même temps, si le démon veut ça, il n'y aura plus de maison. Il veut-tu vraiment ça?
Il veut l'âme, il veut pas la maison.
OK.
Il va aller voir un autre après.
Je connais pas même à ça.
Ouais, c'est ce qu'ils disent d'un vu. Ed et Lorraine faisaient de leur mieux pour être auprès de Nancy et Maurice, mais ils s'occupaient aussi d'un cas de poltergeist dans le coin. Il y avait de l'ouvrage, là.
Ça brassait quand même.
Oui, oui. Les Thériault étaient jamais seuls quand même. Il y avait toujours des gens qui travaillaient avec les Warren, qui habitaient avec eux jour et nuit. Ces gens-là aidaient Nancy et Maurice dans la maison. Ils prenaient des notes de tout ce qui se passait d'anormal, puis ils faisaient aussi les tâches ménagères avec eux, là. Ils restaient pas là à rien faire, à chiller dans la maison. Là, j'ai nourri, tu sais. Mm-hmm. Ed et Lorraine Warren travaillaient très fort pour avoir le feu vert de la part de l'Église pour réaliser l'exorcisme de Maurice. C'était compliqué comme processus, là. Puis le problème, c'est qu'il n'y avait plus beaucoup de gens qui faisaient des exorcismes, même à ce moment-là.
C'était déjà comme passé.
Oui, c'est des années 80, là. Fait que, on
était plus loin.
On s'éloigne.
Oui, la science, comme dit, démystifie certaines choses de la religion. Fait que la religion a commencé à perdre un peu de...
Oui, puis c'est pour ça aussi que l'Église voulait qu'il passe un test avec un psychiatre. Oui. Fait que là, déjà là, il y a une première impasse. Ils ont demandé est-ce qu'une deuxième se fasse, mais ils n'ont pas reparlé dans le livre après.
OK.
Fait que je pense pas qu'il n'ait repassé une deuxième. Ed et Lorraine Warren, ils ont pensé à l'évêque Robert McKenna, qui avait déjà réalisé des exorcismes dans le passé. Les Warren ont contacté l'évêque et lui, il leur a dit qu'il avait déjà entendu parler de l'histoire de Maurice puis qu'il priait pour lui fréquemment, mais qu'il pensait jamais qu'on lui demanderait d'être impliqué. L'évêque McKenna a tout de même accepté. Le dernier exorcisme aurait lieu le 2 mai 1985 et se déroulerait à la ferme de Maurice et Nancy. Le jour venu, l'évêque McKenna s'est équipé de quelques items qui lui seraient utiles pour chasser le démon. Un crucifix en cuivre, une espèce d'arroseur pour asperger Maurice d'eau bénite, des reliques de différents saints, un habit religieux et le livre de prières rituales romani qui contient des prières spécifiques aux exorcismes. Dans le livre « Satan's Harvest », on mentionne que lors d'un exorcisme, les fenêtres et les portes doivent être fermées, à la fois pour empêcher la force maléfique d'affecter la zone extérieure et s'enfuir, et pour empêcher la personne possédée de tenter de se jeter ou de jeter l'exorcisme ou des assassinats par la fenêtre.
Jeter l'exorciste par la fenêtre?
L'exorciste, c'est la personne qui le fait.
L'exorciseur?
Non, c'est l'exorciste. Ah. Ouais.
Ah, OK.
Voilà. Mais c'est un poste. Il y a démonologiste, il y a exorciste. Un bon nombre de personnes étaient présentes lors de l'exorcisme. Il y avait évidemment Maurice, Nancy, Ed, Lorraine, l'évêque McKenna et des employés des Warren, Joey, Taylor, Fred, Salvio, Ken Birch, puis Ryan Dufresne, mais il y en avait d'autres. Là, il était une gang dans la maison. Là.
Quand même, oui.
Quand tout le monde était sur place, ils ont demandé à Maurice de s'installer sur une chaise. Il s'est exécuté sans dire un mot et l'exorcisme a débuté. Il existe une vidéo en ligne de l'exorcisme de Maurice Thériault.
C'est incroyable, ça.
Ça a été filmé. Je vais laisser un lien pour que vous puissiez le visionner et j'ai publié des parties sur nos réseaux. On ne voit pas l'entièreté de l'exorcisme. C'est peut-être 10 minutes, je pense, au total sur YouTube, mais il a duré 2h30.
Mais Dieu merci qu'on ne voit pas tout.
L'exorcisme a commencé avec des prières. Après quelques minutes, des coups forts se sont fait entendre qui proviennent de la chambre de Maurice et Nancy. On aurait dit que la tête de Lee frappait sur le mur. Puis les bruits se sont arrêtés brusquement et ont été remplacés par le son de voix humaines qui semblaient chuchoter. Aucune des personnes présentes n'est en mesure de comprendre ce que les voix disaient. L'évêque McKenna ne se laissait pas distraire par ses tactiques et a continué à prier comme s'il était dans une transe. L'évêque s'est placé devant Maurice pour lui faire face. Il était le moment de convoquer le démon. Est-ce que tu veux lire?
Ah, tu vas pas nous faire lire des affaires de convocation?
Mais c'est une prière.
J'ai peur que ça convoque des... Convoquer, en plus, c'est l'appeler, là.
Ouais, on fait peut-être pas ça.
Ben,
fait
pas ça. Pas, là.
J'ai peur.
Ah non, je veux plus. Ah non, de le dire, c'est comme si on le fait.
Non, mais là, on convoque pas le démon.
T'es
là.
Mieux pas commencer.
Je pense pas qu'il y ait de danger de le lire, là. OK, on y va.
Non. OK, je me ferme les oreilles.
Là!
Si.
Esprit impur, qui que vous soyez et tous vos compagnons qui possèdent ce serviteur de Dieu, par les mystères de l'incarnation, des souffrances et de la mort, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'envoi du Saint-Esprit et par la venue de notre Seigneur au jugement dernier, je vous commande. Dites-moi avec quelques signes votre nom, le jour et l'heure de votre damnation. Obéissez-moi en tout, même si je suis un indigne serviteur de Dieu. Ne faites aucun dommage à cette créature, ni à mes assistants, ni à aucun de leurs biens. Je pense que c'était correct.
Je me suis cachée. Moi, c'est pas vrai que on invoque les démons ici, toi, tu te frousses, là.
Non. Pas chez nous, en même temps, je déménage. Les coups ont recommencé à se faire entendre encore plus fort que la première fois. Ed, Lorraine et les autres pouvaient à peine entendre l'évêque tellement bam, 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 c'était fort.
Mm-hmm.
Maurice s'est mis à saigner du nez, s'est mis à suer, baver, morver. Les gens disaient que ça empestait le sang puis la sueur.
Dégueulasse.
Puis dans la vidéo, tu le vois qu'il y a une trace sur son chandail, on dirait du sang, là. Puis quelqu'un essaie de l'essuyer, mais ça s'en va pas. Donc, c'est pas du liquide clair.
Mais arrêtez pas de mentionner là, que ça sentait, genre, pas bon, là.
Mais c'est un teigne, je pense.
Oui.
Que quand il y a un démon, ça pue.
Oui. Ça sent le pet ou genre...
Dans la vidéo, on peut clairement voir que Maurice, il est pas bien. On dirait qu'il a mal au ventre, il arrête pas de bouger, puis boum, d'un coup sec, il devient stoïque, puis il fixe le vide. Il bouge plus, là, d'un poil, une statue. Mmh. Jamais il a regardé l'évêque, jamais il a regardé le monde autour de lui. Il bouge plus, là. À un moment donné, la caméra zoome et on peut voir que les pupilles de Maurice ont une drôle de forme, que des cloques sont apparues sur son visage et qu'une égratignure se serait ouverte sur le côté gauche de son front. Une brûlure en forme de croix est apparue sur la paume de main de Maurice. Il tremblait, il faisait des bruits similaires à des grognements. Puis il parle, mais c'est impossible de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Le son est pas bon non plus, là. Mais apparemment, qu'il disait des choses qu'il avait... Il dit parler latin, je sais pas trop.
Là. Ouais, sûrement.
Puis aussi, au début du vidéo, je l'ai pas dit, là, mais tu le vois, puis il monte son chandail, puis quelqu'un qui pointe, puis il y aurait une croix gravée dans sa peau. On le voit un peu, mais encore là, la qualité de l'image est pas superbe, mais on voit qu'il y a un petit quelque chose sur son pectoral gauche.
Mm-hmm.
Ed s'est mis à avoir peur que Maurice donne un coup de pied à l'évêque, parce que là, l'évêque était quand même proche. Donc, ils ont décidé de s'y prendre à deux pour enlever les bottes de Maurice rapidement. Genre, deux jetateurs, ils enlèvent les bottes, puis ils repartent pour pas qu'eux-mêmes mangent un coup. En le faisant, tout le monde a vu que les bottes de Maurice étaient imbibées de sang.
Ah, ça se peut-tu? C'est tellement weird.
Maurice aurait tenté de se lever, mais trois personnes présentes ont fait de leur mieux pour le retenir en place pendant qu'il se débattait. Ça a fini que sept personnes qui étaient là essaient de restreindre Maurice avec difficulté. Sept personnes sur un homme. Donc, mais force inhumaine, ça revient.
Moi, à la base, je trouvais que l'idée de l'asseoir sur une chaise, c'était pas super. Je
l'aurais mis où?
Mis sur une table, couché, puis je l'aurais strappé.
Ah!
Je sais pas. Je pensais que c'était ça, un exercice. Parce qu'il faut comme... Je sais pas, je pensais que ça se faisait coucher. Ça m'a comme buggé.
Mais je pense en même temps que si tu restreins quelqu'un, des fois, il peut se faire plus mal.
Oui, j'ai aucune connaissance. C'était purement dans ma tête.
Maurice est finalement retombé dans sa chaise et s'est calmé. Les lumières dans la pièce se sont mises à s'allumer et à s'éteindre. Des cadres se sont mis à trembler. Des vases sont mis à tomber. Bordel dans la maison.
Il devait plus avoir grand vase ici.
D'après moi, il n'y a plus grand déco qui est offert là.
Non. On peut vraiment imaginer la scène comme un bon film d'horreur traditionnel de possession.
Exactement. C'est le classique, là. L'évêque McKinnon n'a jamais arrêté de prier et n'a jamais laissé entrevoir qu'il avait peur. L'évêque a demandé à Maurice s'il était là. Aucune réponse. Alors, il s'est adressé directement au démon en lui demandant son nom. Maurice, entre guillemets, là, c'était pas vraiment Maurice, il a souri puis il a répondu « Je suis qui je suis ». L'évêque a demandé « Combien vous êtes ?» Maurice a répondu « Je suis le seul et l'unique ». Il faisait référence au diable.
Oh, Sainte-Cécile.
Ouais.
J'aurais frissonné de la tête aux pieds.
Ouais. Ça l'a dû un petit peu le shaker. Là. Il a l'air d'être vraiment « groundé », l'évêque, là, mais là, il a dû avoir une petite crainte.
Il y a eu un 2 secondes, là, je pense.
Ouais.
Imagine,
ouais.
Tu te fais genre regarder dans les yeux puis tu te fais dire ça.
En souriant.
Mais on le voit dans la vidéo hein, que ses pupilles sont vraiment bizarres. On dirait des yeux de serpent. Puis il y a plein de monde qui ont débattu que la vidéo était modifiée même à cette époque-là, mais personne n'était capable de faire ça. Ils savent pas qui aurait pu faire ça dans le tas-là. Mais il faut vraiment vous former une opinion avec la vidéo, là, mais on le voit, ses pupilles-là. Puis okay. c'est pas de même au début, puis à un moment donné, ça l'a. Il fait que... En tout cas, on va l'écouter tantôt aussi. Là. On va te le montrer.
Ben oui, on les incante, là, les démons, puis après ça, on écoute une possession. C'est le fun.
Avoue que t'as du fun, hein?
J'ai du fun.
Chris, let's go.
Si tu te réveilles cette nuit à 3h33.
C'est ça.
J'aimerais faire un rappel. Je l'ai dit la semaine passée dans un épisode, à moins que je l'ai coupé, je me rappelle plus. Mais la semaine passée, je me suis réveillée à 3h33 après avoir travaillé sur ce cas-là.
Ah, c'est ordinaire.
Je filais petite dans le bed. L'évêque a reposé la question une deuxième fois à Maurice. C'était qui?
Mm-hmm.
L'évêque a continué ses questions. Pourquoi es-tu ici? Comment as-tu fait pour entrer? Mais n'a obtenu aucune réponse. Alors, il a continué de prier en agitant sa croix et en aspergeant Maurice d'eau bénite. Tout porte à croire que ce fut suffisant parce que le visage de Maurice serait redevenu normal. Il aurait pris une serviette pour s'essuyer le visage. Il se serait levé puis serait allé prendre Nancy dans ses bras. Puis voilà, c'était terminé. Maurice était guéri. Tout le monde en était convaincu.
Moi, je comprends pas si ils disent qu'ils ferment les portes pour pas que l'entité, le diable s'en aille, ben là, il l'aurait vu. Faut qu'il sorte, faut qu'il aille à quelque part, y a-t-il quelqu'un qui le voit? On dirait que je trouve ça bizarre que ça finisse comme « Oup! »
Il le détruit.
Je sais pas, moi, je me souviens dans le film Exorcisme, là, Exorciste, puis la fenêtre est ouverte, puis tu vois le démon sortir. Fait que je pense que c'est mieux qu'il meure dans la maison sans hôte versus sortir puis aller en prendre un autre.
Mais là, l'évêque, là, il a certainement pas tué le diable en personne.
On va voir.
Ouh.
C'est pas terminé encore, là. C'est...
Mais moi, ce que je pense, là, c'est que les esprits puis les démons puis tout ça, c'est des êtres très narcissiques. Fait que sûrement que c'était pas le diable en personne, mais il se donnait une importance plus haute qu'il était vraiment. Il s'est dit qu'il était le diable, mais c'était juste un démon quelconque. Puis...
T'as parce tellement que, raison.
C'était pas le diable en personne. Là. C'était un démon quelconque qui avec s'est fait passer pour le diable. Parce que, tu sais...
Pour avoir l'air d'un king.
Ben, c'est ça. Mais dans le fond...
Tu traites le démon de fraîchier, dans le fond.
Ben, vraiment. Oui, c'est un être narcissique. Je suis désolé, mais tu sais, le diable, il gère les démons. Puis genre, toi, tu vas là. C'est comme
ça. C'est ça même, tu imagines ça, toi?
Ben oui.
Tu nous le diras bien la semaine prochaine, quand tu l'auras rencontré.
Je vous le dis en latin.
Ah, si! OK, bon, je continue. Fait que là, l'exorcisme est terminé. Tout le monde retourne chez eux. Et le soir même, Ed Warren a dû se rendre à l'hôpital parce qu'il a fait une crise de cœur.
Non!
Ouais. Il a passé 17 jours à l'hôpital. Les symptômes, il savait pas que c'était ça, là, mais ça a commencé pendant l'exorcisme.
Oh là là là.
Parce qu'il y a plusieurs symptômes que tu peux ne pas savoir interpréter, là, quand tu fais une crise de cœur, des fois. Là, même chose avec un ACV, dans le fond. Mais si tu rentres chez eux, là, ça filait pas, là. Ça filait vraiment, vraiment pas. Fait que là, il est allé à l'hôpital. Du côté de Maurice et Nancy, tout allait bien. Ils ont repris une vie à peu près normale jusqu'à ce que quelqu'un se pointe au poste de police 2 mois après l'exorcisme pour faire une déclaration contre Maurice Thériault.
Mmh.
Il s'agissait de sa belle-fille, à Maurice. Elle a raconté aux autorités avoir été violée à plusieurs reprises alors qu'elle avait seulement 13 ans, non pas par Maurice, mais par quelqu'un qui ressemblait à Maurice. Elle disait que c'était pas vraiment Maurice, en gros. Tu comprends?
Mais là,
l'autre être. Dans le fond, Maurice l'avait comme convaincu que c'était pas lui qui faisait ça, mais la personne qui le possédait.
OK, ouais. C'était un peu là que je m'en allais dans mon raisonnement, mais j'étais comme... La fille, elle avait quel âge quand elle a témoigné après?
Je le sais pas.
Parce qu'elle est capable de savoir ça. Tu sais, peut-être qu'à 13 ans, elle s'est fait bourrer, là, mais après...
Elle... Mais je pense qu'elle est encore assez manipulée, mais là, elle s'est dit, ben là, je peux y aller. Je sais pas.
Je peux y aller, mais je sais aussi que Maurice, c'est Maurice.
Ouais, c'est ça.
On dirait que ce petit côté-là me twist un peu.
Ouais. Puis c'était pas la première fois que Maurice était accusé de viol. La première fois, c'était en 1976. Et il avait plaidé coupable et il avait purgé 5 ans de probation. Le chef de police, Jerry Leboeuf, avait déjà Maurice à l'œil à cause des 3 incendies mystérieux de la ferme, mais il avait décidé d'attendre après l'exorcisme avant de l'arrêter à la demande des Warren. Puis, il n'avait pas son casse là, d'entendre des histoires de « c'est lui, c'est pas lui, c'est le démon ». Genre toujours une excuse pour ses actes.
Mm-hmm.
Malgré qu'il avait vu Maurice pleurer du sang lui-même, il avait vu les affaires qui n'avaient pas de bon sens, fait qu'il était vraiment mitigé, mais il a dit « là, c'est la limite ».
Okay.
Une agression sexuelle sur un mineur, ça, c'est la limite.
Ouais.
Donc, en 1985, Maurice a été placé en état d'arrestation pour agression sexuelle sur une mineure. Le chef de police, Jerry Leboeuf, et Maurice étaient seuls dans une petite salle d'interrogatoire. Au moment où il avait presque terminé, Leboeuf a remarqué que Maurice avait complètement changé d'attitude. Il avait comme du sang dans la bouche. Maurice aurait alors dit d'une voix lente et grave, « Toi et moi, on va être ici pour très, très longtemps. » Le chef de police, Jerry Leboeuf, s'est dit, « Oupelaï! Non merci! » Il est sorti de la pièce, il est allé chercher de l'eau bénite, il est revenu, puis il a aspergé Maurice, puis Maurice s'est mis à convulser sur sa chaise, puis à se lamenter.
« Well, Jerry, il est donc bien basé. »
Non, non, attends. Puis là, après l'avoir aspergé, Maurice se lamente, il est pas bien, il capote, il convulse. Jerry Leboeuf, il s'est mis à rire, puis il a dit, « C'est pas de l'eau bénite que je viens de te lancer, c'est de l'eau du robinet, puis tu viens de prouver que toute ton histoire est fausse. »
OK, je comprends le move. Wow.
À vous, hein?
Jerry for the
Jerry,
win.
Man. Maurice, il a pas réagi. Comme si rien n'était. Puis après ça, il était comme, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe?
C'est parce... On dirait que là, je commence à douter. Même s'il a pleuré du sang.
Oui, c'est bizarre. Il s'est essuyé la bouche avec son chandail. Fait qu'il y avait quand même du sang en bouche.
Ben oui.
Fait que genre, qu'est-ce que c'est ça?
Il y a quand même eu toute la scène de l'exorciste aussi qui était... entre guillemets vrai, là, j'étais pas là. Là.
Ouais, moi non plus, heureusement. Le chef de police a menotté Maurice puis l'a transporté au palais de justice. Là-bas, quelque chose de similaire s'est produit. Maurice s'est mis à convulser et à cracher du sang.
Ah.
Un des officiers de la cour l'a vu et a appelé l'ambulance. Ils ont placé Maurice dans une camisole de force pour le restreindre puis Maurice a été interné durant quelques semaines.
Aïe, aïe, aïe.
Les accusations de viol contre Maurice ont été abandonnées parce que la fille voulait pas témoigner en cour et parce que le procureur avait vu le vidéo de l'exorcisme de Maurice. Il a dit, c'est correct, j'ai pas besoin d'en voir plus. On abandonne la...
Ah oui, ils ont tous eu peur de Maurice, dans le fond.
Oui, mais ils se sont dit, ben, clairement, il était possédé à ce moment-là.
Ok.
Puis là, ils perdent leur témoin en plus.
Okay. Témoin dans une agression sexuelle.
Non, je comprends. Mais elle a dû avoir peur, tu sais, on s'entend. Ce qui est rendu là assez mouillé, je pense que j'irai témoigner puis je le mettrai en prison plus que je peux parce que là... J'aurais peur qu'il se revire contre moi, le Maurice. Maurice, Satan Maurice.
Ouais. Ed Warren est convaincu que c'est pas Maurice qui était coupable du viol, mais un incubus, qui est une entité qui a un désir d'opprimer sexuellement les femmes.
OK.
Je vais rien dire là-dessus. Ça va être beau. Ça va être beau.
J'ai des petites choses à dire sur Ed Warren dans mon épisode.
J'ai hâte.
Parce que je pense que je comprends pourquoi il dit ça.
Mais justement, grosse coupe, Kat va faire un épisode sur Ed et Lorraine Warren puis les cas qu'ils ont fait prochainement, un jour.
Oui.
Tu travailles sur le dossier.
Je suis là.
Parfait. Fait que on vous allez en apprendre plus sur ces deux êtres iconiques dans le monde du paranormal. En 1990, le livre Satan's Harvest fut publié. Le livre a été écrit par Michael LaSalandra et Mark Marenda, avec l'aide de Maurice et Nancy Thériault, ainsi que Ed et Lorraine Warren. Maurice était présent lors de la tournée du livre, puis il aurait même fait plusieurs apparitions à la télévision nationale pour promouvoir le livre. Mais j'ai pas vu de vidéo de ça, j'ai pas été capable d'en trouver.
OK.
En 1992, 7 ans après le dernier exorcisme, les démons de Maurice sont revenus le hanter. Il avait 56 ans. Maurice et Nancy n'habitaient plus ensemble. Ils avaient divorcé au début de l'année. Nancy avait même demandé une injonction d'éloignement pour que Maurice n'ait plus contact avec elle. Nancy avait su qu'il avait agressé d'autres enfants. De ce que je comprends, c'était les enfants de Nancy.
Ah, oh, mon Dieu, c'était...
Et Maurice les battait aussi, à cachette. Elle n'a rien vu aller.
Elle l'a soutenu là-dedans, en plus, là.
C'est ça.
Je trouve ça...
Elle a été là pour lui, coûte que coûte.
Horrible.
Puis lui, c'est ça qu'il a fait. La ferme qu'ils avaient ensemble a été vendue. Le 4 novembre, Maurice a laissé un message sur la boîte vocale d'Ed et Lorraine Warren disant qu'il avait besoin de leur parler. Le même soir, le 4 novembre, Nancy est allée jouer au bingo. Maurice a profité de son absence pour s'introduire dans la maison, armé avec un fusil de chasse de calibre 12. Il a coupé les fils de téléphone et a attendu le retour de Nancy.
Oh mon Dieu!
À son retour, vers 22 heures, Nancy a été surprise de voir que Maurice était chez elle. Elle lui a dit qu'il ne devait pas être là, puis il l'a frappé avec le derrière de son fusil, puis il l'a battu. Nancy a tenté de s'enfuir. Elle s'est rendue jusqu'à l'extérieur de la maison, mais Maurice l'a rattrapée puis l'a tirée.
Oh là là.
Nancy s'est effondrée. Maurice l'a traînée jusqu'à l'intérieur de la maison et l'a placée dans le divan. Nancy est encore en vie et Maurice n'arrêtait pas de lui dire qu'il allait lui exploser la tête.
Mais voyons.
Là, il a regardé Nancy puis il a vu qu'il avait atteint son bras puis que ça avait presque détaché son bras complètement du reste de son corps.
Avec un dos, oui.
Ça fait des dommages. Maurice se serait mis à dire qu'il allait sûrement en prison puis qu'il devrait faire exploser sa propre tête à la place. Puis il l'a fait. Il a mis fin à ses jours devant Nancy.
Ah, oh, ouais.
Ouais.
Hey, je m'attendais comme pas à ça. Finalement, ça ressemble un peu à la fin que son père a eue.
C'est ça.
Ouais. Mais avant de faire ça, il a pas comme dit à Nancy, dans mes souvenirs, tu vas te rappeler de cette...
Oui,
cette,
il a dit.
Cette image-là va graver dans ta tête pour toujours.
Ouais.
De moi qui se fait sauter.
Wow.
Nancy est sortie de la maison puis s'est rendue chez son voisin avant de s'effondrer. Puis Nancy a survécu.
Hey, pauvre Nancy. Ouais, j'allais te demander si elle...
T'es chanceuse en tabarouette parce que ça aurait pu qu'il la tue aussi. Puis c'est vraiment fou parce que dans son rêve qui a été mentionné dans le livre, qui a été publié 2 ans avant cet incident-là,
mm-hmm.
Maurice voyait dans son rêve que son père disait à sa mère, « Je vais tuer, tu sais, Imelda, Maxime, puis après ça, je vais tuer votre fils. » Mais c'est arrivé, tabarnak.
Mm-hmm.
C'est ça qui est fou. On peut débattre vraiment longtemps sur l'authenticité de ça, là. Je vais vous nommer quelques petits trucs, mais c'est dur, par exemple. Je trouve ça dur de dire que c'est tout faux.
Ben, de dire que c'est genre purement genre une genre de psychose puis une maladie mentale grave, là, c'est quand même... Tu sais, moi, c'est vers là que je me retourne. C'est juste que là, il y a tellement eu d'affaires non expliquées, genre oui. Brûlures sur le corps, le cracher du sang à la cour, là, puis des affaires de même.
Oui. Mais la maladie de pleurer du sang, ça existe, par exemple.
Ah, ben ça m'intéresse.
Oui. Je me rappelle pas du nom, par exemple, mais ça existe. Je me rappelle que quand je travaillais dans une clinique d'optométrie, il y avait un monsieur qui s'est arrivé.
Hey, tout ouais. Le temps, il pleurait que du sang.
Mais c'est arrivé une nuit, t'es allé à l'hôpital tout de suite, là. Nancy a sincèrement cru que Maurice était possédé, tout le long de leur relation, même après. Mais après le dernier et fatal incident du 4 novembre 1992, elle était plus certaine.
Ah ouais.
Ouais. Suite au décès de Maurice et à l'attaque de Nancy, le co-auteur du livre, Michael LaSalandra, c'est dur à dire un peu comme nom, a dit au Washington Post, « Je ne peux pas vous dire que ce soit totalement inattendu, là, ce qui est arrivé, le suicide de Maurice,
mm-hmm.
car cet homme était soit sérieusement perturbé ou possédé. À vous de faire votre choix.
Ouais.
Je ne pense pas qu'il était un escroc. Je pense qu'il croyait sincèrement qu'il était possédé. Mais l'une des sœurs de Maurice a ébranlé l'authenticité de son histoire. Elle a dit « Maurice n'était pas possédé. Maurice était un acteur. Il était obsédé par l'occultisme. » La sœur de Maurice l'avait déjà vu mettre du sang sous ses paupières pour simuler des larmes sanglantes, puis elle a déjà vu graver des croix dans sa peau avec un clou.
Okay.
On dirait que ça fait encore plus peur.
Ben, oui.
Ben oui.
C'est troublant, là. C'est...
Fait que les ouais. Deux espèces de théories, c'est que soit Maurice, dans le fond, avec tout ce qu'il a vécu dans son enfance, avec son père, l'exemple qu'il a eu, les châtiments qu'il a subis, sa vie de misère, dans le fond, il a comme un peu répliqué ça à lui-même, avec peut-être des problèmes de santé mentale puis physique qui ont ouais. Donné ça, ou il a vraiment été possédé.
Ouais.
Mais tout ça fait full de sens. Mais les gens qui étaient là les assistants des Warren, ils ont vu les vases cassés puis les affaires voler dans tous les sens.
Sauf qu'en même temps,
ça,
il
n'y
a pas de preuves. Il y avait des caméras ouais. Constamment avec eux. Pourquoi ils n'ont jamais pu
okay, ouais.
Capturer ça? Sauf que en même temps, La vidéo complète de l'exorciste a convaincu un procureur d'abandonner la poursuite contre Maurice pour un viol.
Ben, il y avait aussi le fait que la victime ne voulait pas témoigner. Là.
Oui, c'est sûr.
Pas négligeable.
Mais Ed et Lorraine Warren ne sont jamais revenus sur le fait que pour eux, c'était une possession. Ils ont toujours affirmé que c'était une possession et que c'était réel. Ed Warren a dit « Pendant l'exorcisme, sa tête s'est ouverte et nous avons ça sur vidéo. S'il s'agissait d'un trouble mental, pourquoi les tables se sont-elles soulevées du sol? » Si on se fait à l'histoire d'Amityville qui a été soutenue par les Warren, c'est possible que l'histoire de Maurice soit fausse à 100% parce que, spoiler, l'histoire d'Amityville, supposément, c'est pas vrai, c'est de la bullshit. Robert Baker, un professeur de psychologie à la retraite, qui a écrit sur des cas de prétendue possession, a déclaré que beaucoup de gens cachent souvent leur culpabilité derrière des allégations de démons. Dans le fond, ils rejettent le blâme sur une tierce personne qui prendrait le contrôle d'eux.
Ouais.
Fait que c'est pour ça que Maurice faisait ça. J'ai pas tué le chien.
Oui, il faisait
J'ai
de la...
J'ai pas battu le cheval.
Dépersonnalisation.
Ouais. C'est pas moi qui ai manqué foncer dans un arbre.
Ouais.
Mais il y a des choses quand même qui s'expliquent pas, là. Tu sais, Nancy, elle l'a vu, là. La porte est ouverte, gravée dans son dos. Comment veux-tu que c'est fait ça?
Surtout que c'est pas écrit.
Il y a comme...
À l'envers, dans... mettons qu'il y a un miroir, il peut pas le faire à l'envers. Il écrira pas à l'envers en plus que c'est pas écrit.
Surtout en français.
Mm-hmm.
Écoute, c'est juste que des fois, là, si je me dis... Si je me fie à ce que la sœur de Maurice a raconté... Il est capable d'aller bien au-delà de ce qu'on pense pour réaliser un genre de scénario. Là. He's a sick man.
Puis encore là, par contre, sa sœur qui dit ça...
Est-ce que c'est de la bullshit?
Elle était pas là.
C'est ça.
Elle
invente ça, elle aussi, pour avoir une sorte d'attention? Est-ce qu'elle veut juste comme contredire son... ce qui a tout été avancé? Puis tu sais, les espèces d'assistants qui étaient là, par contre, en tout temps, qui ont vu des phénomènes paranormal, étrange.
C'est eux qui pourraient nous le dire, mais là...
Mais est-ce que même eux ont été influencés de croire certaines choses qui n'ont même pas été filmées? Tu sais, des fois, quand on est comme plusieurs personnes, puis là, on pense qu'il arrive ça, puis là, on t'as-tu entendu? Mais oui, ah oui, on a tout entendu, mais finalement, on n'a rien entendu parce qu'il n'y a rien.
Ouais.
Est-ce que, tu sais, il y a plusieurs... Il y a des côtés oui, il y a des côtés non.
Ouais.
On doit se faire une opinion tranchée. Jugé.
On dirait que si on pouvait voir la vidéo de 2 heures, ça serait quand même intéressant.
Ah, ça serait incroyable. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Mais encore là, tout ce qui s'est passé, c'est des gens qui y croyaient.
Ouais, c'est ça.
Tout ce qui, c'est des gens qui les croyaient, qui l'ont vu puis qui l'ont dit. Est-ce qu'ils l'ont vraiment vu? Mais Nancy...
Qu'elle dit qu'elle avait un doute à la fin, ça... Quand même, là, je dois dire que ça m'allume quelque chose. Hey, ça devait être un très bon manipulateur aussi, devait, tu sais, je sais pas, d'y monter plein de gens dans...
Ouais, c'est ça. Puis toi, mettons, avec le, je sais pas, comment t'es avancé dans ton cas, sans trop donner d'informations, est-ce que tu penses que les Warren, c'est des gens qui sont crédibles?
Ben, moi, je trouvais que oui.
OK.
Mais tu sais, ce que j'ai, à date, investigué, c'est comme les différences entre la réalité puis les films.
OK.
Fait que, tu sais... Puis leur vie à eux de façon comme séparée, puis il y a leur scandale. Puis leur... Mais tu sais, il y a beaucoup de ce que j'ai découvert qui sont beaucoup à l'argent.
Ben c'est ça.
Fait que moi, je...
Peut-être qu'on va être capable de se faire une idée un peu plus juste quand tu nous auras présenté ton cas.
Oui, ben je vais...
Warren, peut-être que ça nous va nous guider dans... À la fin de ton cas, on dira finalement ce qu'on pense.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que effectivement, comme l'un des auteurs du livre a dit, c'était réel pour Maurice. Il y avait des troubles, il y avait des traumas de ce qu'il avait vécu quand il était jeune. Il avait été brisé. Puis ses actions, il se disait que c'était pas lui.
Mais oui, là, il y a quand même des gros traumas. Là. C'est ça allait pas être un beau long fleuve tranquille sa vie. J'aurais été surpris.
Ouais. Puis ce serait pas inconnu de voir un enfant qui a subi de la violence répétait la même chose dans sa vie. Bon, fait que c'est pas mal tout pour mon cas, mais j'aimerais juste faire mon petit segment culture populaire. Je m'attendais qu'il y ait une chanson qui parte. Donc, mon segment culture populaire. Dans le film Conjuration, les personnes qui interprètent Ed et Lorraine Warren discutent d'un cas d'exorcisme et il s'agit du cas de Maurice Thériault. Il parle devant une classe puis il monte une vidéo, mais c'est une vidéo qui reconstitue l'exorcisme de Maurice. Fait qu'ils montent ça à leur classe, il y a une vidéo que j'en arrête, puis c'est ça. C'est fou, hein?
Ah.
Puis on peut aussi voir un personnage nommé Maurice Thériault et qui est surnommé Frenchie dans le film La Nonne. La Nonne, c'est le nom en France, puis au Québec, c'est la religieuse, je pense. Puis à la fin du film, là, il parle dans une charrette, puis il y a une croix de gravée dans le cou. pour montrer qu'il est possédé. Mais j'ai pas écouté le 2. Je pense que le 2 est sorti.
J'ai pas écouté.
Ou il est sur le bord de sortir.
J'ai aucun des deux, moi.
Moi non plus. J'ai écouté un petit bout de source par l'écran, j'ai pas trippé. Mais longtemps, là.
Mais on n'a jamais écouté de film d'horreur ensemble.
Hey, j'ai hâte.
Et moi, je voulais me retaper justement toutes les classiques, là, Conjuration, hey, blablabla, pour
toi,
pouvoir...
Invite-nous!
Mais je les ai toutes déjà vues, là, genre plein de fois, mais on dirait que maintenant, je suis encore... Je suis rendue une maudite poule mouillée sale. Genre,
plus que t'écoutes des affaires de même, plus ça les attire.
C'est pas vrai, ça, Félix-Antoine.
Je pense pas que ça les attire, en fait. Je
plus
pense que
ça joue dans ton subconscient.
C'est
oui.
C'est ton imagination qui se met à partir, puis ton subconscient qui déraille. Fait que là, tu deviens...
Oh, vigilant.
Ouais. Poule.
Ouais, ouais. Moi, j'ai peur de devenir fragile, puis qu'ils viennent. Parce que j'ai ouvert une porte.
Ben, bon, mais oui. En tout cas, Joanie, merci beaucoup pour le cas que j'avais préparé, hein? que j'avais commencé à préparer. C'était très intéressant.
Merci.
J'ai eu des petits plus que je n'avais pas trouvé, effectivement. Merci.
Ça fait plaisir, merci.
Donc, le segment disparition pour cette semaine, c'est un avis qui date du 19 février 2024. Mathieu Terrien-Meunier. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Mathieu Terrien-Meunier, 37 ans, de Québec. Il a été vu pour la dernière fois le 16 février dernier, près du Mont-du-Rocher à Sainte-Adèle. Il se déplacerait soit à pied, en taxi ou en transport en commun. Il pourrait se trouver dans la région des Laurentides, plus particulièrement dans des secteurs boisés. Ses proches ont des raisons de crainte pour sa santé et sa sécurité. Donc, la description, la taille de 1,80 m, 5 pieds 11, 170 livres, les cheveux bruns, les yeux bruns. La particularité, la cheveux rasée.
Ah, il a les cheveux rasés?
Oui. Il pourrait porter un manteau bleu foncé ou gris foncé avec un pantalon blanc et un sac à dos. Toute personne qui apercevrait Mathieu Terrien-Meunier est priée de communiquer avec le 911. De plus, toutes les informations pouvant permettre de retrouver cette personne peuvent être communiquées confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec. Avec Joanie, tu vas mettre une photo de Mathieu Terrien-Meunier?
Oui, puis des liens si jamais vous en avez de besoin. Alors, c'est tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que Maurice Thériault était possédé pour vrai ou pas? Ou les deux.
We don't know.
We don't know. Mais merci tout le monde. On se voit à la prochaine.
Bye bye.
Bye. Bye.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.